Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du SAV de la F1 consacré au Grand Prix de Malaisie. Un Grand Prix liquide. Oui, liquide comme l'eau qu'on attendait dans ce Grand Prix et qui est venu, pas dimanche, mais bien samedi. Liquide comme le triomphe des Red Bull, mais aussi liquide comme ces deux écuries, l'une sponsorisée par Johnny Walker et l'autre ex-Martini, qui ont vu leur week-end se transformer plutôt en vinaigre dès le samedi. J'espère pour eux qu'ils tournent plutôt à l'eau, en tout cas au moins pour ce soir. Bonjour Dino, bonjour Enzo.
Bonjour.
c'est ce soir qu'on enregistre ?
Ouais, c'est ce soir.
Ah d'accord. En vrai, je suis pas en forme, hein. Oui. Allez, fais tourner Enzo. Ouais, bonsoir. Je vois que t'as tourné en vrai. Bonsoir, comment dire
Non, je m'attendais à ce que vous fassiez ça.
Qu'est-ce qu'on est prévisible.
Eh oui. Dingue,
hein. Là où ce serait vraiment marré, c'est si on avait fait un bonsoir normal, ça se trouve.
Alors,
oh non, ça aurait été pas drôle. Donc, Grand Prix de Malaisie, encore une fois sous la pluie, mais cette fois-ci, pas trop. Enfin, beaucoup, mais pas trop. Donc, enfin, une course en entier. Quoique, lors des qualifs, vous avez vu, on a eu un drapeau rouge. On savait pas forcément quand est-ce qu'on reprendrait. Hein.
Ouais.
Sans doute.
Donc, vous savez par quoi on commence ? Pour votre plus grand malheur.
Le chiffre,
votre plus grand désespoir. Malgré les suppliques de milliers de fans.
Ouais.
Ça m'étonne que t'aies pas un groupe Facebook encore.
Ouais. Ça te serait tardé, tu viens de lancer l'idée. Eh bien, en ce Grand Prix de Malaisie, nous étions le 4 avril.
Et donc, je...
Quoi?
Shinji s'engage s'il y a plus de 300 personnes sur le groupe Facebook.
Hop, c'est bon.
le retour de chiffres inutiles, il le fera revenir.
Et ben, je ferai exprès de faire des chiffres inutiles de merde, encore plus de merde que ceux qui étaient l'an dernier. Ah non, mais 300, ouais, c'est un bon chiffre. Mais 300 vraies personnes, hein. Je veux pas Mickey Mouse et plutôt, je veux des vrais gens.
Parce que tu crois que le Michael Schumacher que t'as en ami, c'est le vrai Michael Schumacher? sur Facebook?
Non, mais je n'ai pas Michael Schumacher en ami.
Je vois que je suis pas le seul sur Facebook. Donc on peut déjà vous le dire, hein, vous pouvez vous inscrire sur le groupe Facebook
pour le retour du chiffre.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'éphéméride. c'est pas drôle en fait.
Si je refais le chiffre, au moins on aura de nouveau un jingle drôle.
Mais non, le plus drôle c'est le jingle en fait. C'est la meilleure partie de l'émission. La rubrique.
Donc, nous étions le 4 avril. Alors cette année c'était Pâques. Oui. Les autres années c'est la Saint Isidore. Enzo, as-tu un...
Isidore le chaman. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça.
Si.
Ah bah voilà.
Alors, un 4 avril, on va commencer par le 4 avril 1949, avec un traité.
Tordesillas.
En 1949.
Ah non, d'accord.
Un traité.
Un traité.
Alors, un traité, c'est pas les traités de la guerre froide?
C'est un traité de la guerre froide. C'est l'OTAN.
Là, c'est l'OTAN.
1949.
Ah, l'autre. Il doit être sur Wikipédia.
Et vous pouvez me citer les pays fondateurs? Comme ça, à la volée.
Italie, France, Angleterre.
France, ils sont fondateurs?
Ils sont fondateurs, oui.
Qu'est-ce qu'il sait qu'il y avait d'autre chez nous? Je sais pas, moi.
Alors, je vais vous lire la liste. Il y avait la Belgique, le Canada, le Danemark, la France, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg,
l'Italie. Les Pays-Bas.
Oui, l'Italie.
Ah bon.
Oui, je sais, c'est pas vraiment sur la façade atlantique, mais bon.
Non, mais dans l'OTAN, il n'y avait pas que des mecs de l'Atlantique.
Non, mais je veux dire, il était dans l'autre camp pendant la guerre. C'est pour ça que ça me surprenait, quoi. Mais c'est vrai que... Oui, non.
La Norvège, le Portugal, le Royaume-Uni, évidemment, les États-Unis. Autre fait marquant d'un 4 avril, en 1969, une première médicale.
La première fécondation in vitro?
Non.
Première greffe du cœur?
J'allais le dire.
Alors,
combat des Bechman, c'est vrai ou c'est
je
pas
veux
vrai.
Une précision, je veux une précision.
Grève du humain. À cœur ouvert.
Non, mais c'est pas bon ce que t'as dit.
Cœur artificiel.
Un cœur artificiel. C'est la première implantation d'un cœur artificiel
sur un humain.
À Houston, sur un humain. Alors, le patient n'a survécu que 4 jours. C'était la, bah, c'était la première fois. Hein.
Monsieur, vous avez un cœur. Eh ben, je vais pouvoir le rendre. C'est gentil.
Il n'a vécu que 4 jours, mais bon.
C'est ballot.
Ouais. Quelques naissances. Alors, pour commencer, la naissance d'un acteur.
Comment que...
en... Non. Et je vais dire comme indice, il est le point commun entre Chaplin et Sherlock Holmes.
Ça, c'est nu comme indice. Autre chose.
Ouais, ça me paraît un peu...
Ah, vas-y, j'ai dit avant, ça me...
Qu'est-ce que je pourrais dire?
C'est un acteur?
C'est un acteur américain.
Chaplin, putain, en plus j'ai lu de...
En quelle année il est né?
1965.
65, bah, c'est vers la fin de la vie de Chaplin. Donc ça doit être... C'est pas un de ses enfants?
Ce n'est pas un de ses enfants.
Robert Downey Jr.?
Oui, Enzo.
Oh.
Parce que Robert Downey Jr. a interprété Sherlock Holmes et Chaplin.
Robert Downey Jr., j'adore.
Ouais,
Robert Downey Jr.
J'allais pas dire c'est Iron Man non plus, c'est un peu facile.
Ah, j'avoue, j'avais Wikipédia.
Ouais, mais ferme Wikipédia, là, je passe pour...
Ferme Wikipédia. Autre naissance en 1975, alors pas d'une personne, d'une société.
C'est vague.
Coca-Cola.
Société américaine. Oh non, Coca-Cola, c'est beaucoup plus vieux.
1875.
1975.
Microsoft, Apple.
Microsoft.
Ouais, c'est Microcomputer Software. En 1975, ils étaient deux. Bill Gates et Paul Allen. Et aujourd'hui, ils sont près de 100 000.
Eh ben.
Et 10 ans plus tard, Microsoft était introduit en bourse, il devenait milliardaire. Et 20 ans plus tard, Bill Gates devenait l'homme le plus riche du monde.
Il était introduit en bourse?
Non, non. Microsoft était introduit en bourse.
Ah,
ça
d'accord.
Fait mal.
pas Bill Gates,
la société.
Bien,
non, non, la société.
Je ne vais pas comprendre.
Les fêtes du jour. Alors, pour l'ONU, savoir que ce 4 avril, c'était la journée internationale contre les mines antipersonnelles. Donc faites gaffe hein, quand vous cherchez des œufs de Pâques.
C'est nul.
Vous avez ri.
Oui, oui,
j'avoue.
Sinon, le 4 avril 1960, c'était l'indépendance du Sénégal, et donc c'est la fête nationale au Sénégal. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler, là, pour les 50 ans du Sénégal, il y a une immense statue qui a été inaugurée à Dakar. Un truc fabriqué par des Nord-Coréens, truc plus grand que la statue de la liberté.
Par des Nord-Coréens?
Oui. D'ailleurs, c'est un style très stalinien, justement, de la statue, tu vois. On dirait un truc issu de l'ex-URSS, mais gigantesque.
Ah ouais!
Et qu'est-ce qu'ils sont allés demander aux Nord-Coréens?
Ah, parce que, non, mais ils l'ont fabriqué, quoi. C'est les Nord-Coréens qui l'ont fabriqué, quoi.
Oh, c'est joli!
Où c'est?
Bah tu dans Google tu cherches statue Dakar et tu tombes sur l'image. Bah, c'est vrai que c'est très
Ah oui oui. Elle a été dessinée par le président du Sénégal hein, Abdoulaye Wad, et donc comme il l'a dessinée, il touchera 35% des recettes. Donc il y a eu un architecte et tout. Ah exactement, d'ailleurs il y a même eu des manifestations contre cette statue. Voilà, c'est peut-être de l'argent qui aurait pu être servi autrement.
Bon, moi je l'ai toujours pas trouvé la statue.
Il porte un enfant, c'est une femme qui tient un homme.
Ah, bah, j'ai pas la bonne alors.
Sinon, en F1, le 4 avril, alors, pour une fois, pas un circuit, mais le 4 avril, nous a quitté un pilote.
Fangio.
Qui fait partie de l'histoire de la F1, et peut-être que quand je vais vous dire le nom, vous allez tout de suite tilter. Le 4 avril 1959, nous quittait Georges Amick.
Ah bah oui.
Et qui est Georges Amick? Enzo?
Je sais pas.
C'est pas Gino?
Georges Amick, un pilote, c'est pas son vrai nom?
C'est son vrai nom.
Son vrai nom?
Oui.
Oui, mais il était connu sous un autre nom.
Non, non.
C'était
en fait, il est détenteur d'un record.
Il était grand ou petit? C'est pas le petit Amick.
C'est pas le petit Amick.
Il est mort en coulant.
Il est décédé à 34 ans pendant un accident durant les 100 miles de Daytona. Il était américain. et il détient un record de la F1. C'est ça la particularité en fait de Georges Amick, que personne ne connaît, mais il détient un record de la F1. Oui. Alors c'est pas un record exotique, hein, c'est un record très classique. Record. Ouais, c'est par contre que lui soit détenteur du record, c'est original.
Un record de vitesse ?
Pas un record de vitesse.
D'un truc qu'il a fait avec son âge, lié à son âge ?
Ce n'est pas lié à son âge.
Un record de d'arrêt au stand, un record de...
Pas d'arrêt au stand. C'est beaucoup plus classique hein, au niveau du record. Pensez, il est américain.
Un record de victoire en nombre, enfin, par rapport au nombre de participations au championnat du monde?
Alors, c'est lié, il y a quelque chose par rapport au nombre de participations.
Alors, il a participé qu'à des courses hors championnat, j'en sais rien.
Non, au contraire, il a participé,
Alors, qu'à Indianapolis.
Oui, il a participé qu'à Indy, forcément, dans les années 50. Mais en fait, il a participé à un Indy.
Et il l'a gagné.
Il l'a pas gagné.
Il a fini premier, il a fait la pole.
Il a fini deuxième.
Deuxième.
Et c'est la seule course comptant pour le championnat du monde de F1 auquel il est participé. Et donc Georges Amick possède, il est détenteur du record en fait de la meilleure moyenne de points avec 6 points.
Il y a plus que 6 points maintenant.
Objection.
Alors après c'est un record qui est critiquable parce que justement il a participé qu'à un Grand Prix.
Amick Georges 6, c'est vrai en plus.
Et oui.
Même Statefin le dit.
Mais oui. Alors, bien évidemment, c'est très discutable. Il a participé qu'à un Grand Prix. C'est pas vraiment très représentatif. Et d'ailleurs, voilà. Si on voit ceux qui sont derrière lui, c'est déjà beaucoup plus important. Puisque le deuxième, Schumacher.
Hamilton, quatrième.
Voilà. Schumacher avec 5,47. Fangio, 5,44. Ce qui est déjà énorme.
Ça va exploser, ça.
Et alors, pour le coup, c'est vrai que Hamilton, qui est à 5,22... Avec le nouveau compte, Schumacher, je sais pas, parce que comme c'est une moyenne, donc sur le nombre de Grand Prix, statistiquement c'est toujours compliqué. Plus le temps passe, plus il est difficile de faire monter une moyenne. Mais c'est vrai que Hamilton, qui n'est là que depuis
4 ans.
Vu qu'il a encore beaucoup d'années devant lui, bah il pourrait peut-être prendre la première place. Même si pour le coup avec le nouveau classement, c'est un classement qui pour le coup va plus dire grand chose, bien évidemment, avec le nouveau classement.
C'est le grand problème de ce nouveau chiffre, hein, ce nouveau barème, c'est que va dire. Je sais qu'il y a pas, je crois que c'est entre les deux grands prix de Bahreïn et d'Australie, je crois. On a Fernando Alonso qui est devenu ex-aequo avec Ayrton Senna. Sauf que ça veut plus rien dire parce que c'est plus le même barème. Donc.
Oui, voilà.
Il y a un article d'ailleurs dans F1 Racing de ce mois-ci sur les raisons du retour de Schumi où ils évoquent le fait que ce soit aussi pour ça qu'il est revenu pour car sinon avec la nouvelle formule il se ferait battre dès cette année par Alonso quoi ou très rapidement par Alonso en nombre de points.
Ah là, forcément, pendant 60 ans, la victoire coûtait entre 8 et 10, donc l'évolution n'était pas non plus énorme. Là, on passait à 25. Donc voilà, c'est tout pour l'éphéméride.
Et donc, non, très intéressant.
Après, le passé...
Mais c'est vrai, quoi.
Ouais.
Après le passé...
Tu vas y arriver, Alain. Une quatrième fois, peut-être.
Bon, allez, jingle.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT du SAV.
Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices, nous sommes le 14 avril 2010 et voici le dossier spécial de notre édition.
25 ans après le report du Grand Prix de Belgique 1985, la Formule 1 pourrait connaître une mésaventure semblable avec le Grand Prix de Corée, premier du nom, qui risquerait de ne pas pouvoir respecter les délais de livraison convenus.
En effet, si ce genre de rumeur est fréquent à l'approche de la deadline finale pour un nouveau Grand Prix, comme ce fut le cas auparavant pour Valence, Singapour ou encore Abu Dhabi, cette fois-ci l'affaire semble sérieuse puisque les doutes sont émis de la bouche même du grand architecte de la F1, pourtant simple conseiller dans ce dossier.
Bien évidemment, les organisateurs se veulent rassurants et les autorités du pays du matin calme affirment mettre tous leurs moyens à disposition pour que ce projet aboutisse malgré la crise. Berdy Ecclestone devrait trancher prochainement quant à l'avenir d'un Grand Prix dont il était un peu le seul à en vouloir.
Ouais, ça serait dommage quand même de perdre ce circuit.
Ouais, enfin le circuit, il a pas l'air extraordinaire non plus. Hein. D'ailleurs, toutes les écuries sont pleines parce qu'ils n'ont même pas reçu des données pour préparer la course devant les dans leur simulateur.
Ouais, sans doute, mais ça reste un super pays à visiter. Tiens d'ailleurs, les mecs, faudrait qu'on se prévoie une soirée diapo pour que je vous montre les photos que j'ai prises là-bas.
T'es allé en Corée, toi?
J'en reviens juste. D'ailleurs, je suis un peu sous le coup du décalage horaire, alors excusez-moi tout de suite si je suis pas vraiment en pleine forme.
Mais attends, est-ce que au moins t'en as profité pour aller voir le circuit?
Oh non, j'étais dans un super village ancien, dans la province de Yeongam. C'était génial.
Yeongam? Mais c'est justement la province où se trouve le circuit.
Ouais, je sais, il y avait des panneaux partout, mais tu vois, le village de Gurim où j'étais, d'ailleurs, je vous le conseille, c'est un truc plutôt zen. C'est là-bas que le maître Feng Shui est né, d'ailleurs.
Et le maître qui?
Le maître Feng Shui, c'est... comment dire? C'est le Valéry d'Amido coréen, tu vois, mais en plus zen. Enfin bref, avec tout cet univers zen autour de moi, j'avais pas envie d'aller voir un circuit d'Hermantique dont je savais à l'avance qu'il allait m'énerver avec ses longues lignes droites et ses virages taillés à l'équerre.
D'accord, mais toi qui étais sur place, est-ce que tu as eu des échos comme quoi le circuit avait pris du retard?
Non, non, mais c'est même le contraire. Hein. D'ailleurs, je me rappelle quand on a discuté avec quelques-uns des Européens qui voyageaient avec moi, et ils étaient super optimistes.
Ah bon, bah c'est rassurant alors.
Ouais, tout roule sur des roulettes. Bon, par contre, hein, tu me connais, hein, je me suis pas privé de jouer les troubles faits dans l'optimisme général. Hein. Je leur ai fait croire que tout allait mal, que les travaux n'avançaient plus. Je leur ai même dit, accroche-toi parce que là j'ai fait fort. Je leur ai même dit que c'était parce que les Coréens jouaient trop aux jeux vidéo au lieu de travailler. C'est un vrai fléau, il paraît là-bas, hein, au point qu'ils sont obligés de fixer un couvre-feu pour les mineurs.
Attends, ils t'ont cru?
Ouais, pas qu'un peu, il y en a même un. Rien que d'y penser, ça me fait rire. Il avait prévu de visiter le circuit le lendemain, mais c'est le gros truc, hein, tout le tout-team avec les officiels et tout. Hein. Mais en fait, il est parti, donc j'ai pas retenu, hein, tu me connais.
Ouais, j'imagine assez bien. Hein.
Ah, c'était quoi son nom déjà? Ah, il revenait même de Malaisie. Il était architecte ou un truc dans le genre. Non, c'est ça. Il était architecte en Malaisie, quoiqu'il avait pas vraiment l'accent malais en fait.
Il avait pas l'accent allemand par hasard?
Ah ouais, attends, maintenant que tu me dis, ouais, c'est ça, il avait l'accent allemand, ouais, ouais.
Ouais, bah bon, cherche pas, c'est Hermantilk. C'est lui qui a émis des doutes quant au délai de livraison du circuit après y avoir fait un séjour la semaine dernière.
Attends, tu veux dire que si ça fait la une de l'actualité, c'est à cause de moi?
Ouais, mais t'inquiète, on dira que tu as été en première ligne du front de l'information. Et maintenant, passons aux infos en vrac. Sepang, malgré les prévisions alarmistes, le Grand Prix de Malaisie sera passé entre les gouttes cette saison, bien que la pluie ait joué un rôle majeur en qualification. S'il a reconnu avoir bénéficié des conditions climatiques samedi, Rubens Barrichello, 7e sur la grille, s'est montré très déçu après une course qui s'est déroulée sur le sec et qu'il a vu terminer à la 12e place. Le Brésilien a confié avoir eu envie de pleurer après la course, même s'il arborait un sourire de façade. Rubino a également créé la polémique en Brésil en qualifiant sa Williams de poubelle. On comprend désormais mieux les larmes du Brésilien. Imaginez-vous coincé pendant une heure et demie dans une poubelle en plein cagnard, il y a vraiment de quoi pleurer.
Cinéma, Berdy Ecclestone se pencherait sérieusement sur la question de la réalisation des courses afin de les rendre plus attractives, écoutant ainsi enfin les critiques émises à l'égard de la réalisation officielle. Pour y remédier, la FOM a sorti l'artillerie lourde, sans jeu de mots, puisque ce n'est ni plus ni moins que Luc Besson qui est en charge d'étudier des solutions à apporter à ce problème. Le scénario de la F1 étant en cours d'écriture, le cinéaste français se serait déjà penché sur le casting avant de porter toute son attention sur la réalisation. Ainsi, Michael Schumacher devrait interpréter le rôle titre du dernier combat, tandis que Lewis Hamilton, qui se donne des airs d'ange, devrait trouver un rôle sur mesure dans Angel H. Le Renault F1 Team devrait être le cinquième élément, tandis que Rubens Barrichello pourrait reprendre le rôle de Jeanne d'Arc, célèbre martyr qui entendait des voix l'incitant à soutenir les efforts de son roi pour la victoire. Décidément, Luc Besson est l'homme de la situation.
Pronostic, à la veille de la dernière course de la tournée du Pacifique, nous avons désormais un meilleur aperçu des forces en présence pour cette saison 2010, ce qui nous permet d'affiner nos pronostics. C'est au tour de Nelson Piquet Jr. de dévoiler le nom de son favori pour le titre, et le Brésilien n'est pas allé chercher bien loin, puisqu'il a cité le nom de son ancien coéquipier Fernando Alonso. Ainsi, déclara-t-il, il est si bon que pour essayer d'être à son niveau, j'ai dû me donner à fond, à tel point que je ne pensais pas cela possible. Information exclusive du service après-vente de la F1, donc Nelson Piquet Jr. était à fond.
Schumacher, le retour du septuple champion du monde allemand ne cesse plus d'être analysé, réanalysé et encore analysé, aussi bien par le petit monde de la F1 que par la presse d'Outre-Rhin. Malgré ses 41 ans et ses 3 années d'absence, on pouvait sans doute s'attendre à mieux qu'une 6e place à Bahreïn, suivie d'une 10e place en Australie et d'un abandon récemment en Malaisie de la part de celui qui avait vampirisé le début du millénaire. Dernier commentateur à apporter sa pierre à l'édifice, l'ancien portier du Bayern Munich et de la Mannschaft, Oliver Kahn, qui conseille à Schumi de tourner la page. Je souhaiterais qu'il puisse un jour mener une autre vie, il faut à un moment savoir lâcher prise, sinon cela peut te détruire, déclare le gardien allemand. Mais Schumi n'est pas le seul pilote à recevoir des conseils de joueurs de foot, puisque l'on apprend de sources officieuses que c'est l'équipe de France qui aurait conseillé les pilotes français, ce qui explique sans doute leur absence sur les grilles de départ cette saison.
Technique, après Virgin, c'est au tour de HRT de revoir le design de son réservoir. Cette fois-ci, ce n'est pas la capacité qui est en cause, mais bel et bien le design qui créerait des mouvements de carburant lors des phases d'accélération et de freinage de la monoplace. À ce propos, Bruno Senna affirme que c'était, je cite, « comme avoir un bonhomme de 150 kg qui dansait dans la voiture au départ ». Vijay Mallya et Norbert Haug ont tenu à faire savoir qu'ils étaient dans leur stand respectif au moment de la course.
C'est ainsi que nous allons conclure cette nouvelle édition du JT du SAV. Nous vous invitons bien évidemment à rester sur notre antenne, à suivre la question actu qui passe inaperçue.
Le service après-vente de la F1 vous présente la question actu qui passe inaperçue.
Youhou ! L'actu ! Où es-tu ?
Eh bien messieurs, c'est l'heure de la question actu. Vous connaissez le principe, pas de Wikipédia, pas de Google, rien. En même temps, ça va pas forcément vous aider sur cette question. Ma question est simple. Pour quelle raison a-t-on pu voir un double champion du monde en Malaisie?
Parce qu'il court chez Ferrari?
Ouais.
Non.
Un double champion du monde.
De quelle discipline?
Ouais, voilà. Vous trouvez
un double champion du monde.
De moto?
Non.
Sport mécanique?
Oui.
Ah. De jet ski?
Non.
Donc c'est sur quatre roues?
C'est sur des roues.
Sur trois roues?
Pas quatre.
C'est sur des roues.
Deux sur
roues.
Deux.
C'est sur des roues.
Roller.
C'est sur des roues.
Skateboard.
C'est sur des roues.
De tractopelle.
Je vais pas non plus vous dire le nombre de roues exact.
Bah pourquoi pas.
Parce que faut que vous ramiez un peu.
Je sais pas, c'est de la moto, du sidecar.
Non, c'est 4 roues.
De camion.
Non. Un petit indice.
De dragster. Ouais, vas-y, un indice.
Je vais dire que si dans sa carrière, il a su dompter les chevaux, on lui a aussi dit qu'il savait dompter les taureaux.
C'est un pilote Red Bull?
Non. Même si ça a un petit lien.
C'est un petit lien.
C'est un Argentin?
Non.
Il est Malien?
Non.
Malais?
Malaisien?
Non. Ouais.
Malais?
Non.
Ouais. Un Espagnol?
Un Espagnol.
Ouais.
Bah, Alonso.
Oui.
Non. Alors, autre indice, il a été titré en 1990 et 1992, et il détient toujours le record de longévité dans sa catégorie avec
Carlos
Sainz, effectivement, avec 196 participations en rallye et 97 podiums. Ce sont toujours des records, même si le record du nombre de victoires de 26 a été battu depuis par Sébastien Loeb. Donc, effectivement, on a vu Carlos Sainz en Malaisie, mais pour quelle raison?
Pour la promo?
Non.
On va faire une biographie sur lui, un film sur lui?
Non. Je dirais même qu'on pourrait le voir régulièrement cette saison dans les paddocks de la F1.
Il est commentateur.
Non, bah il est commentateur, je crois pour une chaîne espagnole, mais ça a aucun rapport.
C'est lié à HRT?
Non.
À Alonso?
Non.
C'est lié à la F1?
De loin.
Ah.
C'est lié à la F1 de 2015-2016.
Ah, je sais.
C'est des questions Michelin?
Non. Pour la construction d'un circuit?
Non. Ni un circuit, ni pour les pneumatiques. Il est venu à titre privé. Hein.
Il fait la promo des énergies vertes.
Il est venu pour son fils.
Ah.
Son fils, Carlos Sainz Jr., qui est né le 1er septembre 1994, et que l'on retrouvera régulièrement cette saison dans les coulisses de la F1, puisqu'il participe au championnat de Formule BMW Europe, et qu'il a été invité ce week-end, le week-end du Grand Prix Malaisie, à participer à sa première course de monoplace, pour la formule BMW Pacific, hein, qui sont deux championnats concomitants au calendrier de la F1. Alors
BMW, il est avec le fils Tambay alors, également, non?
Peut-être.
Oui, il me semble.
Peut-être. Donc c'est le fils du Matador, d'où mon indice, hein. puisque Carlos Sainz était surnommé El Matador. Il a, comme tout le monde, commencé par karting, et la formule BMW est sans doute aujourd'hui l'une des meilleures formules de monoplace, juste après le karting pour accéder à terme à la F1. Parmi les vainqueurs de cette formule BMW, qui est à la base une formule nationale allemande, qui est devenue européenne avec le championnat anglais, et il y a aussi d'autres championnats qui se sont créés, championnat pacifique autour de l'Asie et championnat Amérique. Parmi les vainqueurs, on compte donc Nico Rosberg en 2002, Sebastian Vettel en 2004, Hülkenberg en 2005, ou encore Ho Pintung, l'un des pilotes remplaçants Renault, qui a été le premier champion de l'ouverture de la formule BMW Pacifique. Sachant que le premier champion de la BMW, de la formule BMW, c'était Nico Rosberg en 2002. Le petit Carlos Sainz Jr. sera aligné par l'écurie Oro International, qui est la double tenante du titre en Europe et en Amérique, et qui est sponsorisé par Red Bull. Et il se trouve que récemment, Carlos Sainz Jr. est entré dans la filière Red Bull.
Encore un.
Alors, en karting, il a un petit palmarès. Il a remporté le championnat KF3 de karting en 2008. Et il a terminé premier du Junior Kart Cup de Monaco. Mais sans doute, ce qui parlera un peu plus, c'est qu'il a été le protégé de Michael Schumacher au sein de son équipe, KSM, avec laquelle il a participé au championnat German Junior Kart Championship. On sent vraiment y briller. Il était donc présent, comme je vous l'ai dit, en Malaisie pour participer à la course, aux deux courses malaises, en tant que pilote invité, parce qu'il faut savoir qu'en BMW, vous avez des pilotes qui courent régulièrement, vous avez les rookies et vous avez des invités qui sont ponctuellement invités pour faire une course ou deux. Et il s'en est plutôt bien sorti puisque il est parti en deuxième position sur la grille de départ et qu'il est arrivé deuxième de la première course et quatrième de la seconde. Donc peut-être que sans le savoir, on a assisté au début du successeur de Fernando Alonso dans la F1 à l'horizon de 2015-2016. Voilà.
On n'a pas été trop mauvais.
Non, vous avez été bien.
Non, très bon. Très bon, Enzo. Alors, on passe à la course et au qualif. Ouais. Avec encore une qualification Red Bull.
Bon, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va, on va couper, puis on inserera ce qu'on a dit.
Voilà, exactement. C'est donc la deuxième pole position pour Mark Webber, la huitième pole position pour Red Bull, et la 163e pour Renault à une moyenne de 158,524 km/h.
Ah, alors, c'est pas la même chose, puisque c'est Webber qui a fait la pole.
Ouais, mais c'est Red Bull.
Oui, mais là, on peut plus faire la blague, c'est sa huitième pole sur huit pour Red Bull. Ah bon, il les a toutes faites,
c'est
vrai.
Non, ah oui, c'est vrai. Alors, là, c'est sa troisième pole, c'est ça.
Sa deuxième.
Mais il en a fait combien, pour Jaguar,
non? Non,
il en a fait deux. Il avait fait qu'une deuxième place pour Jaguar.
Red Bull a fait 8 pole positions.
Bah, c'est bon, ça y est, c'est bon.
2 pour Park Webber et 6 pour Vettel.
Mais Vettel en a 7.
Voilà.
Il a gagné chez
Toro Rosso. Et donc, cette semaine, il n'y a pas vraiment une place du con.
Non, il y en a beaucoup, là.
Il y a beaucoup de cons, ouais.
Il y a beaucoup de cons. Alors.
Et moi, des champions du monde.
Je mettrai un accessit à Button, puisqu'il a quand même réussi à se qualifier en Q2, même s'il n'a pas pu se défendre.
Ouais, c'est pas du con.
C'est ce que je dis, voilà, justement. C'est très mauvais, mais c'est pas du con. Mais bien évidemment, alors en plus c'est vraiment tir groupé, hein. 19e Fernando Alonso, 20e Lewis Hamilton et 21e Felipe Massa.
En marquage, Fernando est encore devant.
Ce qui fait que pour la première fois, on a des nouvelles équipes en Q2. On a Kovalainen et Glock. Bon, c'est pas vraiment de leur faute. C'est pas vraiment grâce à eux.
Mais quand même, il faut noter que la Lotus a mis pas loin d'une seconde à la Ferrari. De Massa, plus d'une
d'ailleurs,
seconde.
Ouais, j'aurais pas envie de parler de place du con, j'aurais envie de parler de place des héros. Je pense qu'ils méritent pour une fois qu'on donne leur position au Lotus. Et, ils ont fait combien les Lotus?
Alors, Lotus a fait 15e.
Moi, une Lotus. Hein.
Lotus. Glock sur la Virgin a fait 16e. Trulli a fait 18e, donc coincé entre Button et Alonso.
Excusez du peu.
Voilà. Oh, puis bon, après, on a Shandok 22e, Senna 23 et Di Grassi 24, ce qui est déjà plus classique.
Ouais.
Oui, mais les HRT n'étaient pas dernières.
Ah non. Non. Les HRT ont même mis 2 secondes à Di Grassi.
2 secondes et quelques.
Donc voilà, McLaren et Ferrari. C'est même, j'ai envie de dire, c'est même pas une faute de débutants, puisque les équipes débutantes n'ont pas fait cette erreur d'attendre.
Mais enfin, moi, je comprends pas. Moi, on m'a toujours dit quand il pleut, les mecs, ils attendaient que la météo s'améliore. Mais la météo a beau s'améliorer, la piste va pas sécher toute seule.
Non, mais si la piste est en train de s'assécher, les temps vont s'améliorer.
Oui, mais
le problème, c'est que le temps était tel que, oui, en effet, c'était tellement humide.
En 10 minutes, la piste allait pas s'assécher, quoi.
Et puis, la moindre des précautions, je veux dire, c'est quand même des Ferrari et des McLaren. Même
c'est la sécurité.
S'ils font un tour, même pas à fond, par sécurité, en étant vraiment, en essayant de rien casser, rien, je veux dire, ils se qualifient en Q2 sans problème face aux HRT et consorts.
Mais surtout pour Ferrari. Ils l'ont fait l'an dernier, je crois, déjà.
Non, mais moi, j'ai le souvenir de Ferrari, quand même, qui avait une réputation d'avoir une très bonne météo.
Ouais.
C'était Météo France.
Ouais. Météo France, exactement. Et là, voilà.
Alors, et Dino annonce déjà un bêtisier pour le Grand Prix de Malaisie.
Tandek.
Et voilà. Il a déjà créé le groupe Facebook.
Que je t'avais dit que ça serait déjà direct. Aussi, quelqu'un qui a été un peu décevant, enfin, il est un peu décevant depuis le début de la saison, c'est quand même Schumacher. Parce que s'il y avait quand même un moment où vraiment...
Non.
Mais non.
Tu peux pas dire ça. Je ne t'autorise pas.
Mais franchement, tout le monde s'attendait à ce qu'il soit flamboyant sous la pluie.
Allez, plus de 298 membres.
On s'attendait quand même à ce qu'il se fasse mieux sous la pluie, justement, avec les difficultés qu'il a avec sa Mercedes. Sous la pluie, c'est Rainmaster, Schumacher. Eh ben, pas... Enfin, il est huitième, mais...
Ouais.
Ça peut être mieux.
Ouais. Ouais, non, mais ouais. C'est plus
ce que c'était, quoi. Il a plus sa combinaison rouge.
Voilà. c'est vrai que
c'est rouge, ça fait aller plus vite, c'est vrai.
C'est bien fait pour sa gueule.
Ce qui est une déception pour Michael Schumacher. C'est une déception pour Michael Schumacher.
Il avait capable de trahir.
Ce qui est une déception pour... C'est une déception pour Michael Schumacher, c'est surtout que il est réputé avec Ross Brawn pour être un maître de la stratégie et que finalement il a pas fait la boulette qu'ont fait McLaren et Ferrari, mais il s'en est pas forcément mieux sorti. Il a pas su exploiter ce créneau-là, alors que c'est vrai qu'honnêtement tout le monde s'attendait au moins pas à ce qu'il joue la pole, mais au moins qu'il joue les 2-3 premières places. Là il part combien déjà?
8e. Et d'ailleurs, Rosberg est 2e.
Mais pour une fois, Barrichello le devance.
Je vous l'avais dit. Mais j'ai pas vu les essais, donc je peux pas dire. Je sais pas, il a fait une boulette pendant les essais ou...
Non, il a été moyen, quoi. Enfin,
non, mais
par rapport au niveau Schumick, le niveau Schumick
oui,
que l'on connaît.
Mais il savait qu'il allait pas pleuvoir pendant la course. Donc il a mis des super réglages pour être super bon pendant la course.
Ouais.
Non? Pas plus.
Ouais. Bah, en même temps, on saura jamais. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Oui, parce qu'on a vu quand même. Hein.
Pas oui, ça. Oui.
Bon, passons à la course. Passons au classement. Au classement du SAV. Alors, juste pour noter. Non. Oui.
Là,
oui,
ça va faire sévère, ça.
Pourquoi?
Je sais pas pourquoi. Je sens que.
Ah non, moi, non. Honnêtement, alors cette semaine, je me suis astreint à faire un top 10. Je me suis dit, mets-toi dans la peau de Shinji et d'Enzo et fais un top 10. Voilà, classique.
Alors,
sans faire de polémique. J'ai pensé à ne pas
faire vraiment, polémique. Si vraiment tu avais voulu te mettre dans ma peau, tu aurais cet après-midi relu un résumé du Grand Prix dont tu t'en rappelais pas du tout. Et tu l'aurais fait. T'aurais noté des noms, comme ça. T'aurais noté 8 noms. Tu les aurais classés. Et après, tu te serais dit, oh putain, merde, c'est 10 cette année. Et t'en aurais cherché deux autres.
À noter donc que 15 pilotes ont été nommés par les auditeurs. Par les auditeurs. Avec des classements parfois très serrés. Parce que par exemple, Hülkenberg, qui est 11e pour les auditeurs en fait, il rate la 10e place, mais à rien quoi. 2 points, ce qui sur une dizaine de votes, c'est que dalle.
Et alors, pour nous, il y a 35 pilotes nommés.
Alors, c'est ça qui est étonnant. Donc, sur les 4 notes, hein, les 3 nos trois notes et les, la quatrième des auditeurs.
Tu constateras, Elzo, que c'est de plus en plus, de plus en plus clair. On se foutait de ma gueule l'an dernier, mais là, quand même,
C'est très clair, moi, je trouve.
Donc, les quatre votes qui comptent, hein.
Et bien, arrête d'interrompre Shinji, s'il te plaît.
On retrouve les 10 mêmes pilotes.
Quoi? J'ai rien compris.
Eh bien, les votes de Shinji, le vote de Dino, le vote d'Enzo et le vote des auditeurs, ce sont les 10 mêmes pilotes.
Oh putain, alors oui, ça voilà, c'est...
Voilà.
Dans les auditeurs, il y a eu 15 pilotes de nommés, mais en fait, au final, ils ont les 10 mêmes que nous.
Ça veut dire que nous, on en a que 10, à nous 3.
Voilà. Voilà.
C'est quand même et fort.
Donc, c'est pour ça que je soulignais pour Hülkenberg, qui finalement...
Vous avez pas mis Hülkenberg, frôlé. Ou alors
moi, alors, non, mais moi, dans mon esprit, moi aussi, dans mon esprit, finalement, il était 11e, tu vois.
Ouais, bah ouais. Attends, c'est quoi ce classement que j'ai envoyé, là? Attends, c'est quoi ce classement?
Ah bah moi, je l'ai trouvé tout à fait normal, ce classement. J'ai pas été choqué comme il y a deux semaines.
Non, non, mais je pensais avoir mis mon 7e en 4e, mais non. Oh bah merde, je suis déçu.
Suis-t-il, tu l'as mis 7e?
Non.
Ah merde. Donc, à la 10e place.
Ah la vache, oh non, la rage. Oh.
À la 10e place, il a été nommé 10e par les auditeurs, par Enzo, par Yannick. Moi, je l'ai mis 9e. Donc, non, c'est un gros consensus, hein, quand il n'y a qu'une place d'écart, c'est pas. C'est Alguer Suari, Toro Rosso, qui doit marquer ses premiers points, ouais, je crois.
Chez nous. Et les premiers chez nous.
Ouais, non, mais les premiers, ouais, voilà, ça, c'est
le courant.
Ouais, théoriquement, c'est pas les premiers points, mais je crois qu'il est 9e, donc. C'est 0 points dans l'ancien barème.
De quoi?
Dans l'ancien barème,
oui.
C'est 0.
Dans l'ancien barème, oui, ah, c'est 0. Oui. Là, il est 10e, donc forcément.
Mais pourquoi vous parlez de l'ancien barème?
Mais non, mais c'est comme ça, comparatif.
C'était la Malaisie, c'était pas barème.
Mais non, mais.
Ouh là 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 là.
Ah, il est fatigué, je vous jure.
Non, mais c'est aussi les premiers points FIA, hein.
Mais bien
de
sûr.
De rêver. Oui,
et c'est ce qu'on dit.
Donc, Alguer Suari, 10e. À la 9e place, vous voulez dire quelque chose sur Alguer Suari, parce que bon, c'est comme 10e, c'est pas...
Il non, est là parce, avait... qu'il... parce qu'il marque des points, c'est tout.
Oui, ouais. À la 9e place...
Bon. Puis on nous avait reproché de pas noter quand il avait fait un bon truc contre Schumi, donc...
Bah non, bah voilà, là on l'a noté.
J'ai rien dit, moi. Ah non, moi j'ai rien dit sur Alguer Suari, moi. Oh. Non mais par contre sur Shumi, il a dit que il l'a remercié parce que ça l'avait aidé, ça, il avait appris des choses derrière Shumi. Parce que Shumi devait être super heureux.
J'invite donc tous les pilotes à laisser passer Shumi pour apprendre quelque chose derrière lui. Ah non, il est plus en rouge, pardon.
Ah non, contraire.
Mais derrière Alonso, vous apprendrez beaucoup également.
Pour inviter les pilotes à rester devant Schumi et à laisser passer Alonso.
On demandera quand même à Alguer Suari, Hülkenberg et compagnie de pas être trop souvent derrière Alonso, parce que il y a quand même plus de chances que ce soit parce que Alonso est mauvais que bon.
Non, mais Alonso ne peut pas être mauvais, c'est la voiture, forcément.
C'est bien. On revient du côté rouge de la force.
À la 9e place, je l'ai mis 10e. Dino, tu l'as mis 9e. Les auditeurs l'ont mis 9e aussi. Et Enzo l'a mis à la 6e place. Oh, c'est notre cher russe, Vitaly Petrov. Ouais. Qui, encore une fois, fait une course bien, mais qui la finit pas.
Oui, mais bien.
Mais bien.
Mais moi, vraiment, la question que je me pose, il fait un super début de course. Mais est-ce que il est pas encore dans un mode de format GP2, les courses font 40 minutes.
Oh, c'est pas de toi ça.
Ah non, mais je l'ai mis sur le Twitter au moment de la course. Est-ce qu'il est pas
Ah oui, c'est là que je l'ai lu.
Je crois que c'est lui.
Je croyais que c'était sur un autre site.
je croyais que c'était comment il s'appelle, Froissart ou
Eh ben non, c'est sorti
ça. Eh ben non, c'est Dino.
Non mais on sait qu'on avait utilisé l'argument l'an dernier pour Grosjean en disant qu'il était peut-être un peu fatigué parce que bon, les courses de F1 sont quasiment deux fois plus longues qu'une course de GP2. Et on peut constater quand on regarde ce que fait Petrov, surtout en Malaisie, c'était assez criant. Il a été très performant jusqu'au moment où il y a eu cet incident avec Hamilton.
Cette lutte, c'est pas un incident.
Oui, cette lutte. Ouais, enfin, il y a eu un grand débat sur le site du SAV qui pourrait faire que c'est un incident. Donc, j'utilise les mots de la majorité des gens qui pensent. Et en fait, on a remarqué que après, au niveau performance, il s'était écroulé parce que, alors est-ce que c'est l'impact psychologique de la lutte qu'il a eu, qui était vraiment une grosse lutte, hein, ou est-ce que c'est juste physiquement, il tient pas? Et comme par hasard, on lui a demandé, là, entre les deux Grands Prix, de perdre 10 kilos. Parce qu'il est 10 kilos plus lourd que Kubica, donc pour mieux s'adapter à la voiture. Donc est-ce qu'au niveau forme physique, est-ce qu'il est affûté?
Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce problème un peu inhérent à Renault, de bien préparer une voiture, et puis la deuxième, c'est jamais vraiment top. On l'a vu pendant longtemps, même si l'équipe a changé, bon ben, est-ce que ce problème ne continue pas aussi?
Ben, il y a les deux problèmes, puisque officiellement, Petrov, il abandonne, je crois, sur casse mécanique ou un truc dans le genre. Il abandonne la course, hein, c'est ça? Et j'avais un doute.
Non, je crois.
Tu dis sur moi, est-ce qu'il abandonne? Que je dise pas de conneries.
Petrov, problème de boîte de vitesse.
Ok, donc il abandonne sur un pépin mécanique. Mais déjà, avant, lui, physiquement, on sent qu'il a du mal à finir la course. Parce que ses temps tombent, il commence à reculer dans le classement et voilà.
Sa boîte mécanique, elle s'est pas cassée peut-être en une fois. Hein. Donc ouais, peut-être qu'il y avait déjà des problèmes. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais je voulais pas te casser ton argument. Vas-y, continue.
Non, mais j'ai rien d'autre à dire.
Eh ben, quand on a que ça à dire, on a qu'à
fermer sa gueule.
Certes. Non, mais c'est possible. Mais en tout cas, une belle course, encore une fois.
Ah, mais ça se trouve,
et moi, j'ai bien aimé la lutte avec Lewis.
Je pense qu'on va reparler plus en détail sur Hamilton, je pense, parce que c'est le comportement d'Hamilton qui a fait débat, mais c'est vrai qu'il n'a pas eu peur. C'est tout à son crédit. Il s'est retrouvé face à Hamilton, qui fait en plus un mouvement qui est à la limite de l'acceptable. Et pourtant, il l'a suivi, il s'est pas laissé impressionner, et ça c'est positif pour lui, parce que il s'est attaqué, il s'est défendu, il a pas peur des cadors de la compétition, il tire sa voiture tout ce qu'il peut. Bon, il suffirait que physiquement ça s'améliore un petit peu, et je pense que ça peut devenir très intéressant pour lui.
Complètement.
Et voilà, un but pour le PSG.
Ah, ça, on le redoutait. Excusez-nous, cher auditeur.
Ah bah, c'est le petit quevillis, c'est à 500 mètres de chez moi, attends.
C'est bon.
Non.
Ah oui?
Mais qu'est-ce que tu fous enregistrer, alors?
Ah. Non, mais la F1 passe avant le football.
Oui.
Et le SAV bien avant.
Voilà.
À la 8e place, le pilote Ferrari, Felipe Massa.
Tiens, je les ai dans l'ordre.
Donc, 8e pour Dino, pour Enzo, pour moi-même, et 7e pour les auditeurs. Là encore, un relatif consensus.
Non mais pour les auditeurs, c'est normal, parce qu'il y a un pilote qui doit être devant chez nous, mais qui est derrière chez eux.
En effet. Bon, c'est tout ce qu'il sait,
cher,
mais voilà.
Auditeur, devine qui c'est. Il est rouge.
Non.
Enfin, si. Enfin, pas sur sa combinaison. Enfin, pas trop.
Ah.
Oui. Mais il y a un pilote que les auditeurs peuvent pas saquer, ah, et que voilà, quand ils font des top 10, ils l'oublient.
Et puis alors là, en plus, cette semaine, forcément.
Ah ben là, il a été copieusement oublié. Hein.
Vous êtes malhonnêtes, chers auditeurs.
On va y revenir.
C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je ne suis pas fier de vous.
Donc, Massa.
Bah, fait une belle fin de course.
Une course à la Massa, quoi, on le voit pas.
Ouais, j'ai eu l'impression de revivre l'Australie, quoi.
Ouais.
À faire chier Alonso. et au final, elle finir devant lui, ça m'énerve.
Mais c'est terrible pour Massa, parce qu'il fait, ça qu'il fait un, entre guillemets, un honnête début de saison. L'inconvénient, c'est qu'il a à côté de lui un mec qui est, enfin, monstrueux, quoi. Ce qu'a fait Fernando Alonso, malgré le classement où je l'ai mis, mais ce qu'a fait Fernando Alonso en Malaisie, être quasiment dans le rythme de Massa avec une vitesse en moins, où ça l'a vraiment embêté en course pour pouvoir passer les vitesses, etc. Ça l'embêtait en courbe. C'est un truc de dingue. Et c'est ça qui est, c'est ce que je disais déjà au dernier Grand Prix. Il y a une différence visuelle entre Massa et Alonso. C'est, voilà, visuellement, Massa dégage moins. Enfin, il a été pâteau en début de course. Il a été moyen au milieu de course. Puis vers la fin, il s'est réveillé parce que il a senti qu'il pouvait grappiller quelques trucs. Mais c'est pas suffisant. Ça sera pas suffisant face à Alonso.
C'est le même Dino qui critiquait quand je parlais d'Alonso l'an dernier, quoi.
Oui.
D'accord.
Je suis devenu un fan maintenant. Je suis opéré, ça y est.
D'accord.
Une opération
est faite.
Une femme. Je suis devenu une femme.
Et pourtant, bah, il est en tête du classement général, Massa. C'est ça le plus dingue.
Bon, il est en tête par défaut.
Oui, il l'est par défaut. Ah oui,
parce forcément. Que derrière, il y en a deux qui sont ex-aequo avec oui. chacun, une quatrième place chacun et un abandon chacun.
Oui, c'est pour ça. C'est parce que Massa marque des points à chaque course.
Ouais.
Ouais.
Alors, après Massa, des ex-aequo.
Ah, chouette.
Oh. Donc, ex-aequo à la sixième place. Donc, ils auront tous les deux 8 points. On est bien d'accord. Hein, Dino ?
Bien sûr.
Non, j'ai rien dit, moi.
C'est donc le pilote polonais, Kubica.
Ouais.
Sixième chez moi. Cinquième chez Dino. Septième chez Enzo.
Théoriquement, il est sixième. Si je fais pas la connerie de mettre un autre derrière.
Et quatrième pour les auditeurs. Ex-aequo avec Sutil. Sutil que j'ai mis septième. Que Dino a mis sixième.
Et qui est septième, normalement.
Que Enzo a mis quatrième. Et que les auditeurs ont mis cinquième. Donc tous les deux, bah, ils se retrouvent ex-aequo, sixième place. Alors d'abord Sutil, peut-être.
Je me rappelle même plus. Ah oui, non, oui, ça, je me rappelle ce qu'il a fait en course. Je me disais, mais pourquoi je l'ai mis, lui, au fait Faut qu'on arrête d'enregistrer 10 jours après. Bah, il fait une belle fin de course. Enfin, il retient Hamilton, ça a pas été sans nous rappeler des moments comme les deux Grands Prix de Saint-Marin avec Schumi et Alonso en 2005 et 2006. Voilà, c'est ça aussi qui fait la F1, c'est des courses de résistance et Sutil pour le coup, il mérite autant qu'un beau dépassement de bien résister à un pilote comme il l'a fait à Hamilton, c'est autant de mérite.
Enzo.
Oui, belle analyse. Je n'aurais pas dit mieux.
Quoique, alors apparemment cette année c'est quand même plus facile de résister parce que aérodynamiquement, dès qu'un pilote se retrouve derrière un autre, pendant quelques tours, au bout de quelques tours, bah, les pneus commencent à se dégrader et donc ça devient beaucoup plus difficile de dépasser.
Oui.
Donc il y a encore un. Merci le double, enfin le triple, enfin le millefeuille de diffuseur.
C'est ça, ouais.
Qui provoque sans doute cet effet-là.
Vivement l'an prochain.
Ouais.
Et donc Kubica.
Eh ben, je me rappelle plus trop de sa course, mais s'il est là, c'est qu'il a fait une belle course.
Kubica, il finit quatrième.
Oui, non, mais c'est ça, c'est une belle course. Mais j'ai pas souvenir qu'il nous ait fait des trucs exceptionnels, mais ou du moins ça m'a pas marqué en tout cas. Mmh. Mais bon, encore une course solide, quoi. Hein, on commence à être habitué et surtout on commence à être très surpris.
De la Renault.
De la Renault, quoi.
Oui. Ah, c'est clair, c'est quand même la grosse surprise.
Ah, c'est peut-être aussi la preuve que finalement, être resté sur le concept 2009, on voit ça avec Renault et avec Ferrari, mais l'avoir corrigé et adapté pour vraiment rentrer dans le concept 2010, c'était peut-être pas finalement une mauvaise idée.
Qui l'eût cru, hein.
Ouais.
Oui,
parce que là, c'est vrai qu'on a, avec la F10 et la R30, on a quand même deux voitures qui ressemblent beaucoup à leur aînée et qui pourtant sont bien plus performantes. Mais bon, Kubica, bon, il a le malheur, entre guillemets, de faire une course tranquille, quasiment anonyme. Voilà, enfin, c'est toujours le même problème, hein, c'est que on note aussi des pilotes en fonction de ce qu'on voit à l'écran et, bah, si on les voit pas beaucoup,
Ouais, complètement.
Grosse surprise. Et Renault qui, désormais, l'objectif, c'est Mercedes, hein.
Ouais, c'est la quatrième place.
Ouais, faudrait pas abuser non plus, quoi.
Mais ce qui est rigolo, c'est que maintenant, l'objectif de Force India, c'est Renault.
C'est Renault, en effet.
Non, mais il faut toujours avoir un objectif vidéo, mais bon. Je suis pas persuadé que Renault, tu vois, Renault, j'ai l'impression qu'ils vont nous faire une course un peu à la Sauber. Des belles années. C'est-à-dire un bon début de saison parce que finalement ils ont une bonne base. Mais je suis pas sûr qu'ils aient les moyens et de la développer cette voiture et de progresser. Autant que les autres, en tout cas.
Mais est-ce que si Renault voit pas que la voiture fonctionne bien et qui justement ils ont une bonne base, est-ce qu'ils vont pas se mettre à réinvestir dans l'équipe et à se dire voilà pour le coup allez on a tout remis à plat, on a un nouveau pilote, on a un nouveau management, est-ce qu'on va pas se redonner les moyens de finir sur une bonne touche quoi
parce qu'on au contraire parce qu'ils y connaissent rien à la F1 ceux qui sont là maintenant donc ils se disent oh bah finalement c'est vraiment pas la peine d'investir plus, ça marche bien comme ça donc
Ouais.
Dis-moi, je le vois comme ça. Après, je peux me tromper, hein, mais.
Alors ensuite, on a de nouveau des ex-échos.
Oh putain.
Mais là, attention, il va y avoir du débat.
Ah oh, merde.
Ex-échos à la quatrième place. Fernando Alonso. Je l'ai mis quatrième. Dino, tu l'as mis septième.
Oui, je sais.
Non.
Enzo, tu l'as mis deuxième carrément, et les auditeurs l'ont mis sixième.
Mais vous avez de la merde dans les yeux ou quoi?
Moi j'ai mis quatrième quand même.
Oui non mais les auditeurs là.
Ah.
Et Dino.
Ah merde. Je croyais que t'avais arrêté sur les auditeurs.
Et alors, parce que attends, j'ai pas dit qui était ex-aequo avec lui.
C'est qui? Non.
Parce que le Yin ne peut être qu'accompagné du Yang.
Ah c'est cool. Ah ouais, bah ça me rassure.
J'ai envie de dire attention, ce n'est pas une blague raciste que le blanc est forcément associé du noir.
Ouais.
Bon. C'est Lewis Hamilton que j'ai mis cinquième. Dino, tu l'as mis troisième. Enzo, tu l'as mis troisième.
Et les auditeurs ont mis neuvième.
L'ont mis huitième.
Oh la vache.
Alors,
tu vois, finalement, je suis content d'avoir mis Alonso septième.
Alors, on commence par qui?
Bah, je vais quand même juste. Je comprends pas pourquoi j'ai mis Alonso septième.
Honte à toi.
J'ai fait le classement, je l'ai envoyé, j'ai le mail sous les yeux, je l'ai envoyé à Shinji le jour du Grand Prix à 14h32.
Ah, sur la digestion.
Et voilà. Et pourquoi j'ai mis Alonso 7ème? Ah, sans doute parce que j'ai voulu respecter le classement et que le fait qu'il avait abandonné, enfin, j'ai pas voulu faire mon Yannick, j'ai pas voulu mettre trop en avant un pilote, j'ai voulu rester un peu logique. Mais en fait, toute la semaine, je me suis dit, ah ouais, t'as mis Alonso 4ème, peut-être que t'aurais dû le mettre devant Lewis en 3ème. Et en fait, non, j'ai mis 7ème. Donc voilà, pas l'air con.
Il nous a mis sur le cul, il faut bien le dire. Il fait une course, il fait l'exemple même d'une course de champion qui le résultat n'est pas là. C'est même immérité. Enfin, moi, quand il y a eu ce moteur, je me suis dit non, il mérite pas ça.
Surtout à deux tours, quoi.
Voilà. Et il fait un truc énorme, quoi. Parce que son problème, il l'a dès le départ.
Dès le tour de chauffe.
Enzo?
Oui, non, mais c'est bien. non, mais parce que je me dis que, en cours d'année, bientôt, vous allez vous rendre compte qu'aussi, que Rosberg, il est talentueux. Je suis un visionnaire, moi, j'ai une longueur d'avance sur vous, c'est tout.
Mais on n'est pas sur Rosberg, là.
Non, mais sur Alonso, moi, ça fait un bout de temps que je vous le dis, déjà l'an dernier.
Non mais Alonso, on a toujours vu le talent d'Alonso et ça fait des années qu'il nous bluffe. Voilà, moi il se trouve qu'aujourd'hui je suis plus conquis parce que c'est un pilote Ferrari et j'étais moins avant parce que c'était le grand rival de Ferrari, que ce soit chez McLaren ou chez Renault. Mais c'est monstrueux ce qu'il fait. Enfin, là il a lui-même dit.
Ah là ouais. C'est un bon terme, je crois.
Ce qui est rigolo dans sa déclaration, c'est que il dit, oui, alors là, si vous me demandez tout de suite, je vais vous dire que c'est sans doute la pire course de ma carrière. Mais avec le recul, à la fin de ma carrière, je vous dirais peut-être que ça a été la meilleure et vous comprendrez peut-être pas pourquoi. Mais le problème, c'est qu'on comprend pourquoi que c'est la meilleure. Moi, ça fait trois courses où j'ai toujours été convaincu de son talent, mais ça fait trois courses où j'adore le pilote. Voilà,
Ah, nous avons un nouveau truc sur Facebook. Contre le retour du Chypre. Eh bien, je vais adhérer aussi.
Ça, les auditeurs ont le choix. Et donc, Hamilton.
Bah pareil Hamilton, enfin alors oui, je vais en profiter parce que ça honnêtement ça m'a énervé et voilà. Je suis désolé chers auditeurs. Mais comment est-ce que vous pouvez passer au travers de la course que fait Hamilton? C'était déjà le cas en Australie, c'est encore le cas maintenant, passer à travers de la course que fait Hamilton juste pour cette histoire de zigzag en trop qu'il fait sur la piste devant Petrov. C'est honnêtement, c'est limite, j'en suis venu à me dire quand je voyais des classements sur le site, je me suis dit il cherche la moindre excuse pour le descendre. Parce que quand on voit que dans les quatre premiers, j'ai retenu que les quatre premiers, quand on voit que dans les quatre premiers qui ont donné leur classement, il y en a qu'un seul qui a mis Hamilton dans son classement. C'est voilà. Alors qu'on approuve ou pas ce qu'il a fait avec Petrov, etc. D'accord, ça c'est les goûts, les couleurs, qu'on le mette premier ou le dixième, peu importe. Mais de là à se dire, il mérite même pas d'être dans le classement après la course qu'il a fait, après le show qu'il a fait. Enfin, c'est moi ça me dépasse. Pourtant, Dieu sait que je suis pas fan du pilote. Hein.
Moi, je pense que quand on aime la F1, faut aller au. Alors, on peut jamais être compter totalement impartial. On essaye de l'être, tant bien que mal.
On essaye. Moi, avec Choumi, je suis impartial.
Mais c'est. Je veux dire, il faut savoir reconnaître aussi le talent des pilotes.
Voilà.
Et moi j'aimais pas forcément le personnage Alonso
par le passé
mais je reconnaissais son talent, je reconnais son talent et là c'est pareil, je veux dire Hamilton c'est quand même un jeune hyper talentueux tout comme Vettel, tout comme Rosberg, etc. Mais là il fait quand même une course énorme lui aussi, il remonte oui. Je veux dire, il fait une très très belle course, quoi.
Il sauve son équipe, enfin sérieusement, il sauve son équipe. Encore une fois, il humilie son coéquipier. Mmh. Bon, ils étaient sur deux stratégies différentes, mais.
Flamboyant dès le départ, je veux dire. Sur les quatre, ils ont remonté un espèce de train. Je veux dire, on voit bien en tour par tour les quatre remonter petit à petit. Mais lui, il part tout de suite, quoi.
Ah oui, il les a enfumés les autres.
Hein.
Ah oui.
Mais faut dire aussi qu'il a son F-duct, hein.
Oui.
C'est un vrai kerf.
Ah, Button aussi.
Bah, moi, mais Button, mais est-ce qu'il sait s'en servir seulement Button? Est-ce que chez Button, on n'a pas par hasard créé un autre trou invisible qu'il ne voit pas? Tu sais, dans le long tuyau, il y a un deuxième trou. Alors, Button, il bouge avec son trou, mais ça marche pas parce qu'il y a déjà un trou derrière qui évacue l'air et qu'il n'y a pas sur les longs. Ça se trouve, c'est ça, en fait. Mm. Et ça, moi, je dirais, honnêtement, Button, si tu nous écoutes, Button, if you listen to us, be careful, look at your car, look inside the capo motor and maybe there is another hole that you could find in and maybe they are trucking the car because you are losing.
Wow.
Bon, alors pour ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais...
Jensen, si tu nous entends, excuse-nous.
D'ailleurs, je m'excuse surtout pour ceux qui comprennent l'anglais. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est drôle parce que Button est allé et retourné à Walking et Sales Simulator pour comprendre quel était le problème. Ça se trouve, tous les mecs de McLaren, ils étaient morts de rire en disant « Oh, mais le con, c'est juste qu'on a fait un deuxième trou dans son F-Duct, c'est pour ça. »
Bon, on arrive au podium.
Ouais.
Et à la 3e.
Ah bah, il y en a déjà deux qui sont passés pour moi dans le podium, voilà.
Donc, en 3e place, on a le pilote allemand.
Ça va être hallucinant, ça.
Bon, ouais. Nico Rosberg. Que j'ai mis 3e. Que Dino a mis 4e.
Et qu'aurait dû être 5e.
Kenzo a mis 5e et les auditeurs l'ont mis 3e.
C'est moi qui lui donne la plus mauvaise note.
T'as mis combien, toi?
5.
Ah ouais.
Rosberg qui offre le premier podium à une 100% Mercedes depuis 1955.
Ouais, mais faut arrêter avec ça.
Oui, non, mais. Ah non, d'accord.
Ça, alors tout le monde, ça y est, Mercedes est de retour, etc. Mais c'est bon.
Bonjour.
Ça fait 10 ans que les records de Mercedes. La première fois que McLaren-Mercedes a fait un podium, on a dit, oh, c'est le premier podium de Mercedes depuis 40 ans. Ouais, c'est bon.
Ils ont pas d'ailleurs gagné d'entrée de jeu, Mercedes, quand ils ont équipé McLaren? 1996 en Australie, la victoire de...
Je vais vérifier.
Coulthard. Bah avant c'était avant pour moi c'était c'était Peugeot chez McLaren et chez le Lotus et c'était Ilmor encore chez du moins ça s'appelait Ilmor en tout cas chez
Victoire, première victoire en 97 en Australie avec Coulthard en 97.
Putain, j'avais dit 87. Eh, je suis pas mauvais, non ?
Ouais, c'est bien.
Et alors, c'était leur première victoire ou pas alors ? Non, bon.
Non, faut voir Grand Prix.
Dixième victoire de Mercedes en tant que motoriste, mais.
Mais il y a les selles des années 50.
Ils sont revenus en 80. Oula, ils sont revenus en 94.
Oui, mais avec Sauber, il est mort.
Non, ils étaient avec McLaren en 96, donc c'est leur première victoire. Après un an
c'est
de
participation
déjà. Mais c'est bon, ça. Non, en Australie, oui. Ouais, première.
Ah, mais ils étaient en 96, ils étaient déjà avec. Voilà,
mais vous m'écoutez pas, je viens juste de vous le dire.
Oui, oui, d'accord, ok, autant pour moi.
Mais donc, ils ont pas, les mecs là-haut.
Ils sont pas arrivés sur une victoire donc.
Non.
Autant pour moi alors.
Ah non, ils sont même arrivés en 95.
Bah oui.
Ah ouais,
95.
Ouais, non, avec
McLaren. Avec McLaren.
Avec Mark Blundell et Mika Hakkinen.
Ils auraient mis Brésil, 2 ans.
6ème et 4ème place au Brésil.
2 ans pour gagner.
Ah ouais.
Ah, c'est bien la dernière année de titre, la dernière année de contrat de soumis.
Alors, à la deuxième place.
Ah non! Non, je déconne.
Oh! À la deuxième place, le pilote australien. Hein. Celui qui ne doit pas trop appuyer sur la pédale de frein pour ne pas désolidariser la pédale.
On n'a rien dit sur Rosberg. Je quémande pas, mais. Il est quand même troisième.
On a tellement digressé sur le truc. Alors, la course de Rosberg.
Bah, rien à dire. Comme voilà. Ça en fait, voilà, moi je l'ai mis quatrième pour respecter un temps soit peu le classement, mais comme Kubica, il fait sans doute une bonne course, il va pas chercher les Red Bull, il est pas inquiété par Kubica derrière, bah voilà, il fait une course anonyme, et c'est un peu le défaut de Rosberg.
Il fait une course à la Rosberg qui est comme une course à la Massa, c'est transparent, mais voilà.
Bon. Non, parce que je pense que Rosberg est peut-être un peu plus de, en tout cas sur ce début de saison, peut-être un peu plus flamboyant, enfin un peu plus tonique. Que Massa.
Constant.
Voilà, un plus constant, plus tonique, mais.
Mais là encore, est-ce que c'est pas une image que tu as par rapport à son équipier ? S'il avait eu un autre équipier avec les mêmes résultats.
Bah voilà, mais après c'est vrai qu'il faut voir. Est-ce que par exemple, enfin, faudrait comparer à savoir est-ce que c'est une mec à côté d'Alonso, est-ce que c'est aussi brillant ? Je pense que comme dit Enzo, il est constant, contrairement à là où Massa c'était assez symptomatique en Malaisie. Ça commence très très mollement. Et ça finit très fort. Rosberg, il a été constant. Il fait du très bon boulot et tout. Il n'y a rien à dire. Mais et j'étais content d'ailleurs de le lire sur le blog de Froissart parce qu'il dit la même chose que moi. Mais on attend plus encore. Ce qui manque encore à Rosberg, c'est le côté... ça manque de pétillant, ça manque de... C'est pas le feu d'artifice. C'est pas sa faute. La voiture est moyenne. Là, il s'est retrouvé dans une position moyenne où bah, il était ni inquiété derrière, ni pouvait aller chercher les mecs devant. Donc bah voilà, malheureusement pour lui, ça le met pas forcément en avant, alors qu'il fait un super début de saison.
Oui.
Et qu'il rentre dans l'histoire.
Oui, c'est bon.
Bah c'est vrai.
Oui. Ouais, bah même si ça m'énerve qu'on le dise, ça restera dans l'histoire, le premier podium Mercedes.
Enzo, quelque chose à rajouter ?
Non, je suis assez d'accord avec Dino. Il est là. On le voit pas, mais oui. Il est là. Mais je pense que pendant l'année, dès que la Mercedes sera un peu plus au top en Espagne, je pense qu'avec Schumi, on va voir des beaux trucs. Avec les deux, hein. Schumi et Nico.
C'est d'ailleurs rigolo, c'est que bon, alors là, on nous a annoncé une version B, vraiment une vraie version B, revue, corrigée de la Mercedes, même si théoriquement la monocoque doit rester inchangée, on parle d'un empattement plus long, il y a vraiment beaucoup de changements qui devraient avoir lieu et la Mercedes devrait pas finalement ressembler autant que ça à ce qu'on a vu ces dernières courses.
Tiens, d'ailleurs, je t'arrête 2 minutes, excuse-moi.
Oui.
1, 2, 3. Non, non, oui. Mais je sais plus dans quel cas on en a déjà parlé. Mais pourquoi la monoplace doit rester inchangée, quoi?
C'est quoi? Question de coût.
C'est la monocoque, c'est une question de coût, ouais.
Mais c'est un nouveau règlement?
C'est depuis le début de l'année.
D'accord.
C'est là où de sortir 5 ou 6 monocoques dans l'année, quoi.
Voilà, c'est là où McLaren finalement a bien, c'est pour éviter en fait la course à l'armement, voilà. Et pour éviter, c'est là où McLaren a bien joué avec le F-Duck, parce que
oui.
C'est très bien que toutes les équipes auront beau adapter le principe du tuyau avec le trou qu'on bouge ou qu'on bouge pas, McLaren l'a intégré dans la coque, dans la monocoque, donc c'est eux qui ont finalement le meilleur système puisqu'il est directement intégré pour fonctionner avec la voiture. Ce qui sera pas le cas de Sauber, de Ferrari et compagnie.
Les seuls ayant eu une dérogation, c'est Virgin.
Virgin.
Mais là, c'est parce que bon, il faut qu'ils aient une nouvelle monocoque pour avoir des réservoirs plus grands.
Mais finalement, en fait, c'est un peu à l'image de ce qu'on fait avec les moteurs. C'est-à-dire que le moteur, on sait qu'on peut intervenir dessus, mais seulement avec des exceptions accordées par la FIA. Et puis, bon, y a toujours des petits domaines de développement. Puis
souvent, c'est des exceptions de rattrapage.
Voilà, finalement, là, la voiture, tu peux pas la retoucher entièrement. Tu peux pas te mettre à faire une vraie version B. Tu t'es obligé de faire avec la base que t'as. Est-ce que c'est positif ou pas? Alors c'est vrai que d'un côté ça arrête un peu la course à l'armement, d'un autre côté ça entérine un petit peu la hiérarchie du début de saison.
Ça va, on en est encore à une monocoque par année, parce que tu sais ils peuvent aller encore plus loin. Hein.
Bah, faire comme les moteurs, hein, geler les monocoques sur 5 ans.
Mais c'est très con.
Mais les équipes ont approuvé à l'unanimité. Hein.
Oui. J'avais zappé ce truc.
C'est une subtilité du règlement.
Non mais c'est vrai que c'est pas anodin quand même.
Ah bah non.
Oui quand même.
Parce qu'on voit que ça a des répercussions assez importantes.
Bah surtout si on se rappelle bien quand même on a quand même pas si loin la dernière fois où c'était notable pour un Tom Team, c'était en 2003 où les monoplaces n'étaient pas changées en début d'année. La F2003 GA oui. de Ferrari, elle est apparue après 4 grands prix.
Ouais, à Imola je crois.
Oui.
Ouais, c'est ça.
Bah, souvent au premier grand prix européen à peu près. Ah,
voilà.
Oui, mais avant, c'était dans les années 90, je me rappelle, c'était monnaie courante, quoi.
Ah oui, c'était habituel. Tu savais que
c'était
deux, trois courses
en milieu
souvent
de saison que la nouvelle voiture arrivait, quoi.
Mais c'est peut-être ça aussi justement qu'ils essayent de faire aussi sportivement, c'est de se dire une équipe ne peut pas non plus tabler que sur son avance technologique. On sait que Ferrari, ils pouvaient se permettre sur 4 grands prix de mettre la voiture un peu améliorée de l'année précédente parce que ils avaient une telle avance que ils savaient très bien qu'ils allaient soit gagner, soit finir sur le podium et qu'ils allaient pas perdre trop de points, même si ça, à un moment donné, ça a failli leur coûter cher. Mais maintenant, c'est peut-être
ce qui faisait que ça redistribuait beaucoup plus les cartes au moment du début de la saison européenne.
Ah bah oui.
Puisque tout pouvait changer avec les nouveaux châssis.
Mais là, justement, c'est peut-être aussi la manière de dire aux équipes, vous jouez le jeu, vous allez avoir une nouvelle voiture pour la saison. C'est soit vous faites une évolution de la voiture précédente, soit vous démarrez avec une nouvelle voiture. Mais il faut que votre voiture, elle sera fondamentalement dans ses bases, la même du début à la fin. Mais on voit avec l'exemple de Mercedes, il reste quand même des possibilités de développement autre. Là, on part quand même que de la monocoque, c'est-à-dire juste la partie avant de la voiture.
Voilà, qui s'arrête à l'arrière, on peut la toucher.
Très bien. Donc, je peux enfin passer au deuxième ?
Non, je voulais juste finir aussi. Ce qui est important là, chez Mercedes, c'est que bon, ils ont annoncé là qu'ils allaient sortir une version B de la voiture, et que assez étonnamment, là où on a plutôt Schumacher qui parle pas trop, qui dit qu'il attend beaucoup, puis qui offre un diagnostic qui est un peu différent de celui de Brown. C'est la première fois qu'on entend vraiment les deux dissonner un peu dans leur discours. On a un Rosberg qui dit moi de toute façon c'est pas difficile avec la nouvelle version, je veux gagner à partir du mois de juillet, je veux au moins avoir gagné une fois. Donc on a quand même un Rosberg qui prend de l'assurance.
Ouais, ils sont pas loin. Hein.
Et qui prend un peu la taille patron, et ça je trouve ça intéressant. Voilà, c'est tout.
Très bien.
Tu peux passer à Weber.
Donc passons au deuxième du classement, le pilote australien Mark Webber. Donc je disais, celui qui ne doit pas appuyer trop fort sur la pédale au risque de abîmer la pédale et de casser la pédale et risque de se désolidariser. Honnêtement, il y avait un moment où il fallait pas que Red Bull se fasse écouter. Pas de chance. C'est tombé au mauvais moment.
Non, mais
ils se sont littéralement fait gauler par tout le monde.
Mais c'est drôle parce que on avait parlé la dernière émission des non-codes genre
bananes,
etc. Et là derrière, quand j'ai entendu ça, je fais non mais ils ont pas osé, c'est vraiment très con quoi. Attention Marc, tu appuies trop fort sur la pédale, je crois qu'elle est en train de se désolidariser. Non mais arrête.
Elle est très fragile cette Red Bull.
Oui non mais c'est ça qui est inquiétant, c'est que soit vraiment la Red Bull est extrêmement fragile.
Oui.
Soit les mecs, si c'est vrai, les mecs ont pas pris conscience. Ça fait quand même, je sais pas, ça fait 3 ou 4 ans qu'il est chez eux. Mark Webber, attends, 2006, donc 2007, 2008, 2009, 2010, c'est sa 4e saison avec Red Bull. Si les mecs sont pas au courant que c'est un attaquant qui appuie fort sur la truc, attends, c'est qu'il y a
non,
un problème.
De, depuis qu'il s'est cassé la jambe, il a perdu un peu de sensibilité au niveau du pied. Et du coup, il écrase un peu trop fort.
La ah, on l'a, Enzo qui sauve l'affaire de Red Bull.
Alors, j'ai oublié de dire que Weber avait été mis deuxième par moi-même, deuxième par Dino, deuxième par les auditeurs. Et Enzo, peux-tu nous rappeler à quelle place tu as mis Weber?
Neuvième.
Tu as mis neuvième. Wow.
Je ne l'avais même pas mis dans mon classement initialement quand j'en avais mis que 8.
Oh la vache. Pourquoi?
Ouais. Pourquoi? Comment le justifier? Ben parce qu'il s'est fait bouffer tout cru, encore une fois, par le petit gamin. Et ouais, non, voilà, pour ça. Je veux dire, il fait la pole, mais derrière, c'est du Weber, quoi.
Mais je crois d'ailleurs, globalement, ça lui réussit pas trop, hein,
de partir en pole. Non, pas du tout. Parce ni en première ligne.
Je me rappelle le coup déjà de Jaguar où il avait fait une deuxième place, je crois.
En Malaisie d'ailleurs.
Il s'était totalement cagué au départ. Je crois que lors de sa première pole, c'est pas le coup, il a pris une pénalité ou un truc dans le genre.
Et bah si, il a un peu tassé tout le monde, non?
Voilà, donc ça.
Non, mais ouais.
Donc il est pas, enfin, c'est vrai qu'il y a un phénomène de se dire quand t'as des voitures devant, t'es obligé d'être au taquet. Quand t'as rien devant, t'as pas de repère, donc t'es toujours un peu hésitant. Et il paraît que c'est un vrai problème pour les pilotes, et c'était d'ailleurs une inquiétude, je crois, pour Rosberg, qui partait deuxième. Donc c'était la première fois qu'il partait sur la première ligne, donc on disait, est-ce que il va être atteint d'un syndrome qui touche beaucoup de pilotes, c'est-à-dire, première ligne, il a rien devant lui, et bien il va devoir se débrouiller tout seul comme un grand pour son départ et pas le rater.
Bah, faut lui dire qu'il y a un virage quand même au bout. Oui, non, mais bon, voilà, Weber, moi, il m'a pas... Il fallait un neuvième, je l'ai mis.
Voilà. Et bah, Dino?
Non, moi, pour une fois, j'ai envie que ce soit toi qui explique. Vu qu'on l'a mis en même position.
Ouais. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est vrai que il se fait doubler, mais j'ai aimé son sens de l'attaque. Justement, ce symbole de la pédale de frein, alors qu'il aurait pu ralentir beaucoup plus tôt. Je veux dire, une fois que Vettel est parti, c'est bon, quoi. Il pouvait le laisser. Et non, parce que selon le coup de la pédale de frein, on entend quoi passer la mi-course facilement.
Bon, c'est vers la fin, c'est avec un petit tour.
Je pense qu'il a voulu pousser aussi parce qu'il sait qu'actuellement Vettel, il avait un peu le chat noir, qu'il serait
allé. Il veut montrer que voilà, il est pas. Il veut peut-être montrer qu'il est capable de faire jeu égal, tout simplement. Parce que c'est vrai que bon, pour l'instant, c'est pas ça, quoi. Et alors? En tête de notre classement. Oh. Alors attention.
Il est en tête, mais je parie avec le large.
Attention. Nous avons un grand chelem.
Waouh.
Puisqu'il a été mis en tête par tous les auditeurs, par tous les chroniqueurs, enfin par tout le monde. C'est-à-dire que si je calcule, il a cumulé 300 points, quelque chose comme ça, de malade. C'est l'Allemand Sébastien Vettel qui pour la première fois gagne en ne partant pas de la pole. C'est ça.
La première fois cette saison parce qu'il a déjà gagné l'an
dernier. J'ai pas le souvenir de l'avoir vu gagner en ne partant pas de la pole.
Si, ça lui est déjà arrivé.
C'est pas en Angleterre ? Non. Oui, en Angleterre. En Angleterre ou en Chine ?
Angleterre, il part en pole. Ah non, Abu Dhabi, il part deuxième en effet. Il a quand même mis une année, hein.
Et au Japon ?
Au Japon, il part en pole. Donc c'est la deuxième fois après Abu Dhabi.
C'est quand même que la deuxième fois.
Ouais, il a que 6 victoires aussi. Hein.
Oui.
Ouais, voilà.
Donc il double Weber et puis on le revoit plus, quoi.
C'est statistiquement plus facile aussi de gagner quand tu pars de la pole.
Oui, bien sûr.
Ouais, il fait une belle course. Apparemment, chez Red Bull, alors est-ce que c'est la vérité ou est-ce que Red Bull gonfle un peu le torse? Ils ont géré la fin, ils ont géré la course, ils ont pas été à fond.
Bah, en même temps, avec les deux premiers,
ouais, ils ont dominé la course, voilà. Rien à dire. Mais il y a quand même quelque chose, honnêtement, avec la Red Bull, elle est, je trouve, trop supérieure aux autres voitures pour que ce soit naturel. Ça me.
Ah!
Non, mais. Parce qu'ils trichent.
Je pense que sans tricher, je pense qu'ils ont effectivement trouvé une solution pour modifier la garde au sol de la voiture entre les qualifs et la course.
Bah de toute façon, on risque de
voir que ce soit une triche. Hein. Parce que on sait que la FIA a dit qu'il fallait pas de système qui permette de passer, de changer la garde au sol. Maintenant, honnêtement, c'est peut-être qu'ils ont trouvé une solution. D'ailleurs, McLaren a dit qu'ils avaient trouvé la solution aussi. C'est peut-être une solution qu'ils ont trouvée sans que ce soit un système, juste un truc tout con. Hein. Des fois, les idées toutes connes. On l'a vu avec le F-duct. Oui. On s'est embêté à faire des kers, etc. On m'a pour trouver 15 km/h en plus en ligne droite, tu fais juste un tuyau qui va de l'avant vers l'arrière, et voilà, un truc tout simple, tout ingénieux.
C'est peut-être une manivelle, un peu comme t'as pour baisser ta vide dans ta bagnole, et eux, ça baisse la garde au sol.
Peut-être.
À l'intérieur, le gaz.
Non, mais ils ont peut-être, je sais pas, il y a peut-être un gaz ou un matériau qui existe sur Terre qui se détend avec le poids.
Ah oui, avec les matériaux de suspension.
Voilà, plus la voiture serait lourde, plus elle se surélève, enfin, par exemple.
Elle s'abaisserait.
Voilà, plus elle s'abaisserait, enfin, il y aurait un système comme ça.
Parce que la logique, c'est qu'elle soit haute pour qu'avec le plein, elle soit assez basse.
Voilà.
C'est vrai que, mais en même temps, elle était déjà rapide l'an dernier, cette Red Bull. Hein.
Ah ouais, non, mais ils, cette année, avec tous les efforts qu'ont fait Ferrari, McLaren, qui sont quand même deux monstres de développement, qui ont énormément de moyens à leur service, Red Bull, même si on compare par rapport à la Mercedes, Red Bull, ils ont fait un pas de géant, même par rapport à la RB5. Alors d'où ça vient On va pas jouer les mauvaises langues, mais si c'est légal, c'est un bijou cette voiture, parce que y a rien à dire.
Ah bah, faut juste assurer la fiabilité, quoi, parce que pour l'instant, c'est une fusée. Hein.
Une Ariane.
Bon, d'ailleurs, tiens, c'est quoi le nom de la Red Bull de Vettel cette année? Parce qu'on sait
je ne sais pas.
À chaque voiture, il donne un nom, et on sait toujours pas le nom de cette année.
Ah, bah, faudra lui demander.
D'un autre côté, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, hein, quand même.
Donc, au classement, d'abord le classement du SAV. Nous avons...
Il y a celui-là.
Ah, le nom s'appelle Lucius Lees.
Il s'appelle comment?
Lucius Lees.
Donc, au classement du SAV, Vettel avec sa Lucius Lees. Avec 62 points, parce que bien évidemment il cartonne au classement du SAV.
Oh oui.
Suivi de Alonso, 45 points, et de Kubica, 32 points. Donc Kubica aussi qui a reçu beaucoup de points de la part du SAV. Chez le classement constructeur du SAV, Red Bull qui a marqué 43 points d'un coup, forcément.
Ah ouais.
Mène avec 82 points devant Ferrari 74.
Pas encore Ferrari trop loin. Qui est un peu derrière de la réalité.
Oui. Ouais. Suivi de McLaren qui est déjà à 49 points. Et au classement FIA, nous avons donc Felipe Massa.
L'autre classement.
L'autre classement. Nous avons Felipe Massa, leader par défaut, faut bien le dire. 39 points devant Alonso et Vettel à 37 points. Et à noter qu'on a quand même encore 7 pilotes en 9 points.
Ouais.
Donc, vu le nombre de points qui sont distribués maintenant, c'est quand même assez resserré.
Et que Marc Weber est en retrait sur tout ça.
Oui.
C'est déjà, le seul. Oui.
Il décolle un petit peu.
Weber et Schumacher, c'est les deux qui sont en retrait sur leur coéquipier.
Schumacher, on en parle même pas.
Mais
il a 9 points, je veux dire.
Voilà, mais c'est quand même, c'est un mec qu'on attendait en début de saison parce qu'il avait plus de points.
Ah oui, bah carrément. Chez les constructeurs, Ferrari donc 76 points. Devant McLaren 66 et Red Bull 61, donc eux aussi ils mettent un petit peu de marge déjà par rapport au quatrième.
Ouais. Bah, c'est clair, il y en a trois qui se distinguent.
Ah oui. Bon.
Le groupe du 4 n'est plus que 3.
Ah, pour l'instant, le Big 4 est un Big 3.
Moi je l'avais dit en début de saison, j'étais sûr qu'il y en allait un entre Red Bull et Mercedes qui allait pas tenir ses promesses. Je pensais que ce serait Red Bull plutôt, mais bon.
Mais en même temps, Mercedes ne se casse pas la gueule. Je veux dire, c'est pas non plus.
Bah, disons qu'ils ont bien avancé que les autres.
Voilà, ils sont un peu derrière. C'est pas comme s'ils avaient complètement raté leur voiture et puis qu'ils avaient une année noire, quoi.
Ils sont peut-être.
Ça change tout quand on a que quelques mois pour faire une voiture.
Oui. Ouais.
Mais en plus, c'est aussi indirectement, ils sont pas très loin de la place qu'ils occupaient en fin de saison dernière. en fin de saison dernière, ils sont derrière Red Bull et McLaren. Et si Ferrari n'avait pas arrêté son développement, ils auraient été derrière Ferrari. Donc finalement, ils sont à la place où ils étaient en fin de saison.
Allez, tout de suite, après avoir fait la review du Grand Prix de cette année, on va replonger dans le passé. C'est la minute, qui dure souvent plus d'une minute, d'Enzo.
Ah bon ?
Ceci est un message du comité de surveillance des podcasts. Pour relever le niveau de l'émission, le service après-vente de la F1 vous présente sa rubrique culture, la minute historique d'Enzo.
Alors Enzo,
en fait, c'est une rubrique qui pourrait s'appeler Histoire et Statistiques.
Oui. Sponsorisée par statf1.com.
Également. C'est vrai. Complètement. Non, le but de cette rubrique aujourd'hui.
Arrête avec tes pieds, cette zone.
Je les pose. Je les pose.
Ça va être chiant au montage.
D'accord, ok, ok. Le but de cette rubrique aujourd'hui, ça va être de rassurer Dino.
Va faire des trucs simples. Non,
pas du tout, pas du tout. Je voudrais te donner un chiffre. Voilà, il y a 80% de chances pour qu'Alonso soit champion du monde.
Vous l'avez remporté la première course ?
Oui.
Ouais.
Statistiquement, effectivement, sur les 20 dernières années, 16 fois, ce qui est quand même assez impressionnant, 16 fois celui qui a gagné la première course a été champion du monde.
Et je crois même qu'on monte à plus de 90% si on tient compte de l'équipe. L'équipe qui a gagné la première course est championne. Enfin,
et une grande partie de ces 18 années, c'est ça ? 20 ?
16
années ?
16 20, années, oui.
C'est quasiment sur le même circuit. C'est l'Australie, pour une bonne dizaine, quinzaine.
Ouais.
Sur un circuit qu'on qualifie d'atypique en plus, donc...
Donc c'est quand même assez révélateur. Si on monte un peu plus loin dans les stats et qu'on fait ça sur 30 ans, la statistique baisse un peu, elle baisse à 60%. Alors ça s'explique aussi parce qu'à ce moment-là, on arrive dans les années 80, où là on avait des voitures moins fiables, et donc c'était pas rare. Bon, il y avait beaucoup de cases dans l'année, donc ça explique que celui qui gagnait n'était pas forcément... se retrouvait pas forcément champion du monde. Donc 80% de chance pour que ce soit Alonso champion. Si on veut aller plus loin, il y a 95% de chance que ce soit Alonso ou Button.
Ouais, ça c'est celui qui a gagné en Australie, c'est ça ?
En Australie, ouais.
Puisque voilà, 19 fois en fait, 19 fois sur 20 ces 20 dernières années, et bien celui qui a été champion du monde a gagné la deuxième course.
Ouais.
C'était le cas notamment donc en 2005 pour Alonso, en 99, sachant que la première course en 2005 c'était son coéquipier effectivement Fisichella qui avait gagné. En 99, Häkkinen qui allait être champion du monde avait gagné la deuxième course alors que Irvine avait gagné la première. Et en 97, Villeneuve avait gagné la deuxième course alors que Coulthard avait gagné la première. Alors par contre donc 95% donc que ce soit Alonso ou Button, donc on va dire, et Vettel, donc Vettel c'est pareil, si on prend celui qui a gagné la troisième course, on a la même stat. Mais par contre il y a Schumi. S'il gagne en Chine, il peut également être champion du monde, puisque c'est le seul qui a réussi à être champion du monde en ne gagnant pas les trois premières courses et en attendant la quatrième pour s'imposer. C'était en 2003.
Sur combien d'années, pareil, sur la même période, vingtaine d'années.
Toujours sur les 20 ans, quoi.
Dire que l'an dernier, on s'est inquiété parce que Ferrari n'avait pas de points au bout de trois courses.
C'est vrai.
Tout à fait. Mais bon, ils avaient en 2003, pour rappel quand même, justement, on en parlait tout à l'heure, ils couraient les premières courses avec la F2002,
ouais,
qui avait été hyper dominatrice, donc ils n'avaient pas encore sorti leur F2003 GA. Mais bon, il a gagné la quatrième course, puis la cinquième, puis la sixième, puis la huitième. Donc après, il a un peu calmé, il s'est un peu chauffé, quoi. Si on monte un peu plus loin, on a des trucs assez... plus impressionnant. En 89, Prost attendra la cinquième course pour s'imposer.
Ouais.
Ah ouais, quand même.
quand même, puisque Mansell et trois fois Senna s'étaient imposés avant lui.
En plus, on est sur des saisons à 16 courses.
À 16 courses complètement. Ouais. En 87, on attendra la 8e course pour voir Piquet s'imposer. mais il y a pire. Il y a pire. En 82, année qui connut 11 vainqueurs différents. 11. Rosberg attendra l'avant-avant-dernière course pour s'imposer. Et là, c'est le record quand même. Et puis bon, c'est un peu, je suis pas allé au-delà des années 80 pour ces statistiques, quoi.
Mais c'est quand même assez rigolo parce que au même moment, ça fait deux ans qu'on a un débat sur mettre en avant la victoire dans les barèmes, etc. Il y a eu la polémique après le titre d'Hamilton où on disait oui, mais il aurait fallu mettre un système de médailles pour celui qui a le plus de victoires. Et finalement, on se rend compte que dans le temps, bah, celui qui a le plus de victoires ou celui qui gagne le plus souvent, bah, c'est celui qui est champion. Alors que dans le
c'est
temps,
dingue, ça.
On voit Rosberg champion, ouais, alors qu'il a gagné que trois courses avant la fin de saison. Donc c'est finalement c'est plus la régularité qui payait il y a quelques années.
Et surtout qu'une fois qu'il avait gagné qu'une fois.
Ouais, voilà.
Oui.
Bon, c'était aussi une année où il y avait où il y a eu énormément de champions, de vainqueurs différents. On en avait parlé en 2003 justement, quand il y avait eu énormément de vainqueurs différents, puisqu'il y avait eu 8 vainqueurs en 2003. Ouais. Coulthard, Raikkonen, Fisichella, Schumacher, Montoya, Ralf, j'ai oublié quoi, Barrichello, Alonso. Donc 8 vainqueurs différents. Et d'ailleurs, je me suis aperçu de quelque chose également en faisant ces stats, c'est qu'on on s'est beaucoup plaint, on dit ouais, les années 90, les luttes Senna, Prost, c'était bien, il y avait de la bagarre. Oui, mais quand on regarde bien, en fait, il n'y avait pas forcément énormément de vainqueurs différents, mis à part 82. Mais sinon, dans les années 80-90, on tourne à 4-5 vainqueurs différents par course.
Ouais.
On a souvent
deux grosses équipes qui dominent beaucoup, voilà, voire une qui en domine énormément, et puis parfois une ou deux courses où une troisième équipe arrive à placer une victoire, des choses comme ça.
Ouais, complètement. Et là, ces deux dernières saisons, bah, on a eu la chance d'avoir respectivement 6 et 7 vainqueurs différents, dont l'an dernier 5 vainqueurs différents en 5 courses, ce qui était assez impressionnant.
Bah, même cette année, on peut en avoir potentiellement 9.
Oui.
Les 6 pilotes, oui. Ferrari, Red Bull, McLaren. Les deux Mercedes qui peuvent marquer des points, et pourquoi pas Robert Kubica, opportuniste, qui peut aussi remporter une victoire.
Ouais, complètement. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'ai listé ces pilotes par année, j'ai remarqué qu'à peu près tous les deux ans, on avait une surprise. Alors en 2008, c'était un peu c'était la première victoire. Du moins, c'était quand même une surprise de Kubica
au Canada.
Bon, la même année, Kovalainen a gagné, mais bon, il était sur McLaren. C'était moins attendu, du moins, c'était plus attendu, on va dire.
Et puis, faut se rappeler les circonstances et lui un peu tombé dessus.
Et Vettel, j'ai complètement
oublié.
Monza,
oui.
Je me rappelle de l'année 2008, parce que c'était la fameuse année où ça faisait des années qu'on se demandait qui serait le 100e pilote.
Oui, tout à fait. Oui.
À remporter une course. Et je crois que c'était...
Je crois que c'est Kovalainen.
Entre Kubica et Heidfeld.
C'est Kova.
Et en fait, c'est Kovalainen.
Ouais.
Et depuis, on en est à 101. Avec Weber, ça fait 102. Avec...
C'est tout. Deux années plus tôt, en 2006, c'était la première victoire de Button, en Hongrie.
Ouais.
En 2004, deux années plus tôt, encore une fois, c'était la première victoire de Trulli à Monaco.
En 2006, il y a Massa aussi.
Oui, mais il était chez Ferrari, donc moins attendu. C'était dans ce sens-là.
C'est surprenant comparé à Barrichello, mais.
Oui.
Voilà. Donc Trulli en 2004. En 2003, c'était la victoire surprise d'Alonso. Encore une fois, c'était en Hongrie. En 2001, ça doit être les premières victoires de Ralf et de Montoya. Mais sur Williams, BMW, donc là non plus, c'était pas très impressionnant. Et après, quand on remonte un peu plus loin, 2000, on a Barrichello. 99, on a la victoire surprise de Herbert sur Stewart Ford. Et voilà, quoi. Quelques pointes. Et puis, bien sûr, en 96, Panis sur Ligier qui gagne à Monaco, dans les rues de Monaco. Donc c'est à peu près tous les deux ans qu'il y a une grosse surprise comme ça.
La question, c'est qui pourrait être surprise?
Voilà, en 2010, on devrait peut-être avoir une grosse surprise comme ça.
Qui pourrait être Pourquoi pas une Force India?
C'est justement ce que je pensais.
Parce que bon, Renault marche bien, donc a priori, on peut se dire qu'après tout, ça serait peut-être pas forcément une surprise. Oui, pourquoi pas une Force India?
Voilà.
Bah, c'était très intéressant. Musique,
c'était extrêmement intéressant.
Off. Comme toujours.
Off. Oui.
Je sais que c'était une rubrique que les fans attendent, enfin que nos auditeurs attendent.
Et donc j'espère une victoire de Schumi. histoire de voir.
Moi j'espère une victoire d'Alonso, histoire de voir.
En tout cas, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un tel début de saison. Du moins, non, c'est complètement fou en fait. Ce que je dis, en 2008, pareil, trois vainqueurs différents aux trois premières courses. En 2007 aussi, avec Raikkonen, Alonso, Massa. Et en 2006 aussi, en fait. Donc ça, c'est assez
rigolo. Ce qui est drôle, c'est que cette année, on a failli avoir... là, on a trois courses, trois vainqueurs. Alors qu'on
a failli avoir trois
vainqueurs. Voilà, ouais. Exactement le contraire. Donc... On passe au fait marquant. Et j'ai noté quand j'ai écouté qu'un certain monteur a mis un jingle. Hein, comme par hasard, c'est la personne qui montait l'émission qui a gagné ce petit sondage. Et comme par hasard, il s'est mis un beau jingle brésilien. là, mon sang a fait que ça. J'ai fait, mais c'est quoi ça? Donc... On va revenir sur le Grand Prix d'Australie. Donc, quel est, selon vous, le fait marquant du Grand Prix d'Australie 2010? En troisième position, avec 6 votes, 18%, nous avons l'accident du départ qui dynamite la course. En deuxième position, avec 11 votes, 31%, la remontée d'Alonso après son accident. Et enfin, en tête, avec 51% des voix, 18 votes, le pari en pneus slick de Button.
Qui est la réponse de qui, ça?
De moi!
Bravo, Chidi!
Là, tu vas voir que tu vas être un jingle de merde.
Pour lui, c'est la fête. Par-dessus le sou. Comme les girouettes. C'est super chouette. C'est extra fou. C'est la danse des canards, les gamins comme les loupards vont danser ce vieux refrain dans tous les coins.
Oui, on peut aussi signaler qu'on a, je crois que ça doit être le record pour un sondage, on a 35 personnes qui ont voté.
Merci.
Donc je fais confiance au vote unique, hein, bien sûr. C'est sans doute pas anodin, je vais en profiter pour parler du site toutf1.com. Voilà, juste pour dire que ils sont nos partenaires, ils mettent un article à chaque fois qu'on publie un message. Je les en remercie au nom. On remercie Sabrina. On vous encourage vivement à aller sur son site parce que c'est un site qui est en essence et qu'on connaît le sérieux de Sabrina qui s'en occupe. Et donc voilà. C'est juste une petite parenthèse. Excuse-moi, Shinji.
Non. Donc.
Sinon, je peux aussi. Non.
Vas-y.
non, rien, c'est tout.
L'accident du départ, c'était qui? C'était Enzo qui l'avait dit.
C'était moi.
C'était toi. Bon, ouais. Bah, tu choisis en premier.
Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Alors moi je vais proposer tout simplement la lutte Hamilton Petrov.
Enzo?
Le fait marquant de la course.
Oui.
C'est bien de te rappeler de là où on est, Enzo.
Ouais.
Alors c'est pas vraiment la course. C'est l'arnaque du début de championnat, Massa qui est leader après 3 courses. Parce que pour moi il y a rien d'autre. C'est une arnaque.
Quant à moi, je vais dire Red Bull, gaulé en direct par des millions de gens, a demandé à Weber de ralentir.
Donc, c'est long, là.
Oui, ça va être long.
Red Bull, gaulé en plein direct, a donné des consignes de course, c'est ça?
Voilà.
Oh, t'as changé par rapport à ce qu'il disait.
Ouais, non, mais je sais pas, je lui demande de...
Non, ça va.
Mais ça, c'est bon.
On savait tous que c'était des consignes de course.
J'avais pas compris, moi, je croyais que c'était vraiment vrai.
Bon bah voilà, c'est un bon trio.
Oui, c'est un bon trio.
Donc pour voter, hein, c'est tout simple, vous allez sur www.savf1.fr.
Tout de suite, les drive-thru.
Le service après-vente de la F1 vous présente les drive-thru of the weekend.
quand les animateurs disent que franchement, c'est pas bien.
C'est vrai que c'est pas bien.
C'est vrai, c'est pas bien. Alors ?
Ah, moi j'en ai un drive-thru si vous voulez.
Vas-y.
Vas-y.
Alors moi j'ai un drive-thru contre les organisateurs du Grand Prix.
Ah bah non, j'ai le même.
Non, arrête.
Ah.
Eh ben c'est pas grave.
Finalement avec mon drive-thru banal, ça va. Je me démerde bien.
Parce que et on a quand même eu le droit à cette magnifique déclaration de l'organisateur du Grand Prix qui s'appelle Razalia, je sais plus quoi. Qui a annoncé qu'il allait faire une demande au gouvernement d'un budget de 60 millions d'euros pour rénover le circuit de Singapour de Sepang qui a 12 ans maintenant et qui du fait des conditions climatiques est pas mal mis à contribution, notamment les tribunes, etc. Mais surtout ce qui est très rigolo, c'est la manière dont il l'a dit. Il a dit il serait peut-être temps de rénover parce que bon, ces dernières années, on rénovait surtout le paddock parce que c'est là que passe Bernie et Closetone. Donc ils l'ont dit, il l'a dit, je pense, sur le ton de l'humour, etc. Mais quand tu sais que derrière, en fait, ce qu'il faut réparer, c'est les toitures en toile des tribunes qui partent en morceaux et qui fait que dès qu'il y a de la pluie, tous les spectateurs se prennent de la flotte sur la gueule. Quand tu sais que c'est des réparations sommaires qui sont prévues sur les rampes et compagnie, et que le mec te dit en rigolant, oui, mais en fait, parce que généralement, on concentre nos efforts sur le paddock parce que c'est là où il y a Bernie. C'est rigolo. Donc c'est, Amy, c'est pas un vrai drive-thru parce que.
Au final, je comprends. C'est un drive-thru, c'est pas un drive-thru.
C'est un drive-thru, mais j'ai pas non plus envie que. Enfin, voilà, c'est.
C'est un gentil drive-thru.
Il y a une certaine subtilité dans ce qu'il dit. Je pense que dans ce que dit l'organisateur, c'est surtout une manière de dire, de toute façon, on fait tout pour plaire à Bernie et voilà. Je pense qu'il critique davantage le système, il met davantage en relief le système. Et que voilà, c'est sûr que si tu prends au premier degré, c'est un drive-thru, c'est indigné par ce qu'il dit en disant voilà, on fait beau pour Bernie, puis les mecs qui payent leurs billets, on en a rien à foutre, on répare que quand on a le temps. Je pense que surtout lui dans le fond, c'était de dire bah oui, mais bien évidemment, on fait tout pour faire plaisir à Bernie et voilà. Donc voilà.
Ouh.
D'accord.
Enzo.
Je suis alors... d'accord avec l'analyse de Dino, je trouve que oui. C'était pertinent. Mais moi je dirais que c'est un drive-thru.
Eh ben moi mon drive-thru il a rien à voir avec la course.
Ouais. Alors le sondage il avait rien à voir avec la course.
Ah oui, mais j'ai plus de souvenirs de la course en fait.
Oui, c'est pour ça, en fait. On a compris ta stratégie, c'est banal.
Oui.
Non, mon drive-thru c'est envers Michelin. Je trouve que. Dans la représentation de leur logo Bibendum, c'est un mauvais exemple pour les jeunes face au fléau de l'obésité.
Oh putain!
Ah, il nous a tué Shinji!
Ça vous plaît pas?
Oh, il est très bien!
Non, c'était pas ça. mais c'était vraiment contre Michelin qui veut imposer ses conditions pour revenir. Et voilà, moi je notamment la reprise du moins avoir de la concurrence, modifier la largeur des pneus et c'est un peu à contre-courant par rapport à toutes les mesures qui ont été mises en place dernièrement pour essayer de réduire les coûts. Donc oui. Voilà, dans sa façon de faire, je trouve pas ça très.
C'est vrai que demander 8 à 10 millions par équipe, une période de réduction des coûts, c'est pas top.
D'un autre côté, ça leur coûte des sous aussi. Hein, ça,
oui, voilà.
Mais
ça sert à rien. Ils demandent de la concurrence, ils demandent changer les pneus 18 pouces. Alors c'est une raison parce que indirectement, ça va réduire les coûts parce que ça va les augmenter pour les équipes parce qu'ils vont sans doute devoir s'adapter.
Ouais, mais pour pas les pour équipes,
Michelin. C'est cher. En plus du fait que je sais plus ce que j'allais dire, mais c'est pas grave. Mais par contre, c'est l'avantage. L'avantage, c'est que c'est des pneus qui ressemblent, pour les pneumaticiens, qui ressemblent davantage aux pneus de route que les pneus de F1 qui dans leur, enfin, pas dans leur forme, ça reste rond et tout, hein, mais qui, dans leur épaisseur, etc., s'éloignent un peu du pneu de route moderne.
Ils vont pas les faire carrés, alors?
Non. Et en plus, c'est le type de pneus qu'ils utilisent déjà au Mans. Et l'avantage, c'est que donc, de ce coup-là, il y aurait des coûts de développement moindres pour le constructeur pneumatique, et ça permettrait aussi de faire venir des constructeurs pneumatiques qui sont déjà présents dans d'autres championnats, que ce soit dans l'endurance, mais pourquoi pas le WRC, etc., comme Dunlop ou Yokohama.
Et du moins, surtout modifier les caractéristiques des pneus, c'est encore redistribuer les cartes.
Oui.
Et on sait qu'à chaque fois, tous ces changements de réglementation, le KERS, le double diffuseur, que je vais être supprimé, le double diffuseur, mais je vais être remettre peut-être le KERS, à chaque fois, ça redistribue les cartes complètement entre les équipes, c'est complètement artificiel. Et voilà. Donc moi, je suis un peu contre. Je pense que c'est important qu'il y ait quand même une certaine stabilité dans les règlements. Et ça va un peu à l'encontre.
Ce qui peut être intéressant, c'est que justement, Michelin, à force d'être trop gourmand, risque peut-être de se faire damer le pion par Bridgestone.
Qui pourrait rester.
Dont le président a déclaré que c'était... lui, il estimait que c'était... je crois que c'est le président, mais il y a tellement de présidents dans les sociétés japonaises. Que lui, il estimait que c'était pas forcément une bonne décision.
Ça me rappelle un texte.
Sortirait, oui. C'était finalement pas forcément une bonne décision que de quitter la F1.
Donc, voilà. C'est...
Aussi sur le KERS, alors apparemment, c'est pour 2011, c'est pas gagné.
D'accord. Ah,
c'est les équipes qui sont frileuses ou...
Tout le monde est en train de se dire, oui, peut-être que avant de faire ça, faut peut-être réfléchir. Tout le monde n'aura pas le moyen de se le payer. Grosso modo, tout le monde se dit, attends, en 2011, on aura le droit de changer la monocoque. Donc, on pourra faire un F-Duct qui sera, qui aura le même effet et voilà.
Voilà. Et sinon, moi, j'aime bien le Bibendum, il est joli.
C'est au Bibendum, faut que tu fasses des yeux pervers.
Oui. Un Bibendum pervers, ce serait top, ouais.
Mes dessins s'adressent à tout le monde, y compris aux enfants.
Mais aussi aux adultes.
Eh ben, ils peuvent avoir peur.
Non, moi j'avais décidé de faire un grand classique du drive-thru.
Oh. Il y a trois lettres.
Les podiums, les coupes, les trophées.
Oh non, il y a trois lettres.
Non, ah, bah non.
FIA.
Hein? Non, l'autre. L'autre grand classique.
Bernie.
C'est Bernie, oui. Parce que Bernie
Nous
a affirmé qu'il y aurait une course, a priori près de New York, une course en Russie. Alors, il ne sait pas encore Moscou ou Sochi. Et il nous a confirmé cette course à Rome. Et donc, j'avais envie d'y revenir, parce que c'est vrai que qui dit nouveau circuit dit circuit en moins. Alors, la crainte de voir disparaître des circuits, c'est pas nouveau. Hein, ça fait des années qu'on en parle. Mais c'est vrai que là, on atteint un espèce de point critique, puisqu'on est déjà à 19 courses pour l'instant cette année. Que l'an prochain, on sera à 20. 20 qui est censé être la barrière ultime. Hein, puisque jusqu'alors, quand un circuit arrivait dans le championnat...
Non. Je suis pas d'accord, c'est 52 la barrière ultime.
Ouais. Mais tout le monde est d'accord pour dire que 20, ça devrait être le maximum. Donc l'an prochain, on devrait avoir une saison à 20 courses, qui est a priori la barrière symbolique, hein, parce qu'a priori, il y a un consensus pour dire qu'une saison de F1, ça sera 20 courses et pas plus. Donc forcément, on arrive à un point où, automatiquement, si on rajoute des courses, il faudra en enlever.
Ouais.
Donc là, Barème, on était dans l'hypothèse.
Valence.
Ça serait bien.
La Hongrie.
Ah bah, c'est que la Russie, Hongrie, New York.
Eh ben alors, je suis pour la réinstauration du bloc soviétique pour que la Hongrie fasse de nouveau partie du bloc soviétique et qu'on ait une course en Russie qui se passe sur le Hongrie.
New York, ça pourrait toujours menacer le Canada. Et puis alors, le truc qui est tout à fait paradoxal, c'est-à-dire que on menace les grands prix européens. On dit aux États européens, non, faut pas que vous ayez de grands prix, faut qu'il y ait des grands prix un peu partout dans le monde. Et donc déjà, on avait donné un deuxième grand prix à l'Espagne, et là, on envisage donc de donner un deuxième grand prix à l'Italie.
De rendre.
Et normalement, il n'y aura plus dû y en avoir.
Mais il se murmure même que l'histoire de la Corée dont on parlait dans le JT du SAV, il se murmure qu'en fait, ce serait une réaction de la presse allemande. Puisque c'est parti d'un journal allemand, ce serait une réaction de protestation dans la presse allemande qui aurait fait courir cette histoire-là, Et juste pour effectivement mettre Bernie dans la complexité
merde.
Oui, dans la merde, oui. J'ai pas envie de dire dans la merde, mais de dire voilà, vous voyez, ils nous proposent des nouveaux circuits, ils sont même
pas capables
de tenir les délais.
Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un grand classique hein. Mais là on arrive à un point où va falloir faire des choix. Et malheureusement, les choix risquent d'être douloureux. Alors quand on voit la grande enquête LG où les grands prix européens sont plébiscités, c'est encore une fois bien dommage.
D'ailleurs, puisque tu parles de la grande enquête LG, on peut parler de la grande enquête SAV. Waouh. On a lancé, alors ceux qui ne sont pas encore passés sur le site, il y a un article qui vous invite à nous donner votre calendrier idéal. On avait fait ça avec Shinji avant même que
leur sorte.
Et donc vous êtes invité sur l'article qui s'appelle « Et si vous étiez Bernie ?» à nous communiquer votre calendrier idéal avec vos 20 courses idéales. Voilà, et on essaiera de faire une synthèse à la fin, d'ici la semaine prochaine peut-être, pour dire quels sont les circuits qui bougent pas, etc., etc.
Très bien. Donc, on va quitter là définitivement la course. Ouais. Et on va arriver sur notre concours chéri.
Ah, le concours top position.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours top position. Un concours sans musique qui fait flipper ni question à la con, quoique.
Oui, quoique, parce qu'on a eu des exemples quand même de questions à la con, hein.
Oui.
On dira rien, Pasteur.
Donc, la question de la semaine dernière.
Oh merde.
Quelle question nous avons eu là?
Alors, la question c'était,
Oui. Tout ça à cause du Bachelor.
Ouais. Attends. Pour quel pilote le premier Grand Prix d'Australie fut-il aussi le dernier Grand Prix de sa carrière? Et la réponse
non, est le premier.
Ah. Non. Donc déjà, faut rappeler que c'était le Grand Prix d'Australie en 1985.
Voilà, le premier.
Et donc le pilote pour qui c'était le dernier Grand Prix, puisque c'était en fin de saison 1985, c'était Niki Lauda.
Voilà.
L'homme barbecue.
Oh non. Que moi je le fasse en dessin, ok? Mais non. On a perdu Dino.
Dino, c'est bon, il est mort.
Donc, vous voulez peut-être savoir le nombre de personnes qui ont répondu?
Oui.
Alors. Il y en a deux qui m'ont envoyé des réponses et je leur ai dit non, c'est pas ça, faut bien que tu réécoutes la question, c'est voilà, puis j'ai mis un indice ensuite sur la page et il y en a un troisième qui a répondu. Donc est-ce qu'il a répondu à cause de l'indice ou parce qu'il avait été très fort qu'il avait la réponse? Je sais pas. Mais en tout cas, bravo le Bachelor pour ta question.
Non mais comment ils ont pu ne pas trouver la réponse?
C'est que la question était terrible quoi.
Oui, non mais nous on l'a bien reformulé, je veux dire.
Et je pense que maintenant que les gens ont entendu tout le making of, tout le bêtisier, je pense qu'ils ont compris la question. Et je pense que dans le feu de l'action, la question étant tellement alambiquée que voilà. Donc nous avons eu trois réponses. Je rappelle hein, pour pouvoir participer, il faut d'abord que vous ayez la bonne réponse, mais qu'en plus vous nous suggériez avec une question qui ait un rapport plus ou moins lointain avec le Grand Prix dont on parle ici la
avec Malaisie. La réponse
oui avec la réponse, alors ça va que là j'ai pas les réponses, là, j'en ai quelques-unes.
Oh mon Dieu,
j'en ai deux, un autre j'ai pas la réponse. Donc la première question c'est quels sont les deux pilotes qui ont le plus scoré en Malaisie alors qu'ils n'y ont jamais fait la pole. Alors scoré, est-ce que c'est le nombre de places, est-ce que c'est le nombre de victoires, enfin je sais pas,
et le nombre de points,
et t'as pas la réponse,
et j'ai pas la réponse.
On élimine.
Deuxième question. Depuis combien de temps la marque malaisienne, c'est la marque malaisienne Petronas est-elle impliquée en Formule 1?
Ah ouais.
Et enfin, quel pilote a remporté le premier Grand Prix de Malaisie?
Irvine.
Donc on va prendre la deuxième.
Et c'est donc Globen qui remporte cette manche et qui donc ne pourra pas répondre à la prochaine question, hein, puisqu'il s'agit de la question, je vous la répète, depuis combien de temps la marque malaisienne Petronas est-elle impliquée en Formule 1? L'indice de cette question, c'est attention, c'est avec Sauber. Donc voilà, donc je rappelle, hein, vous marquez des points pour la fin de la saison, on pourra soit un cadeau, soit on verra. Voilà.
On verra.
Donc, vous allez sur le site du www.savf1.fr, rubrique contact, vous choisissez dans le sujet question, concours, top proposition, et donc vous répondez à la question. Vous avez jusqu'à la semaine prochaine. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on vous donne des indices à max hein, pour y répondre. Et n'oubliez pas de nous proposer une question sur le Grand Prix de Chine.
Avec la réponse.
Avec la réponse. Parce que des fois, ça peut être disqualifiant.
Bon. Donc, après le concours, on finit l'émission comme d'habitude.
Enfin.
Oui.
En regardant. J'ai toujours rêvé de dire ça.
En regardant, j'allais dire la semaine prochaine, mais même pas la semaine prochaine, dans 3 jours.
Bah, théoriquement, demain.
Oui, c'est vrai. Demain. Donc, le Grand Prix de Chine. Hein, à Shanghai. Alors. Qu'on a ce nom, alors peut-être plus vieux, mais c'est pas sûr. Apparemment, le temps s'améliore un peu.
Moi, je sais pas, je dirais Schumacher. C'était quoi?
Ouais.
Non, non, honnêtement, je dirais soit Hamilton, soit Vettel. Mais plutôt Hamilton. Moi,
j'aurais dit aussi Hamilton, avec les longues lignes droites.
Rosberg. Vettel,
hein, Rosberg. Pourquoi Rosberg. Pas?
Il n'y a pas Schumi, hein. Pourtant, si Schumi gagne, il sera peut-être champion à la fin de la saison.
C'est vrai. Bon. On vous remercie comme d'habitude. On vous dit.
Pourquoi on les remercie d'ailleurs?
Bah, déjà d'avoir eu le courage d'écouter toute l'émission.
Ouais, c'est vrai.
C'est rien que ça. On vous souhaite comme d'habitude une bonne soirée ou une bonne journée.
Tu pourrais nous remercier nous.
Ouais, c'est vrai ça. Moi je vous remercie avant. Bah, tiens. Hein. Moi je vous remercie puis là tu nous remercies plus.
C'est vrai. C'est vrai. Merci Dino.
Mais merci Enzo. Merci Enzo.
Bah, merci Enzo et merci Dino. Et merci à moi-même, parce que je sens bien que si je me remercie pas, c'est pas vous qui allez me remercier.
Bon, on va pas te remercier, alors qu'on est à plus de 2h30 d'enregistrement.
Oh, poète, hein. sur piste sexe.
Alors voilà, vous comprendrez en regardant le petit making-of.
Mais je ne l'ai jamais dit, ça.
Non, voilà. C'est moi qui l'ai dit. Ce qui a fait totalement dérailler Enzo.
C'est chier parce que je m'étais débarrassé du concours top position là et il me ressort une autre merde. Un truc. Faire.
Allez, salut à tous.
Allez, ciao.
À bientôt, ciao.